African Anarchist Radio. Radio. All you free Negroes say yeah.
Yeah, yeah.
Gardez vos yeux fermés et écoutez.
Voilà, bonjour, c'est Paco encore une fois depuis le Festival de Morlaix. Nous sommes en direct au Phare, F-A-R, Festival des Arts de la Rue de Morlaix. Et c'est la troisième édition de cette couverture de festival. Elle commence un peu plus tôt que les autres jours. Pourquoi ? Eh bien parce que après on va riper au bout du monde, donc il fallait un petit moment pour faire Morlaix et Crozon. Si je résume, deux petites heures de direct avec Paco et puis plein d'invités pour le Phare, ainsi que Aurélien qui m'aidera notamment à l'animation, puisque Cathy de Fréquence Mutine n'est pas présente aujourd'hui. Et puis aux environs de 17h, on essaiera d'être au Festival du Bout du Monde avec Cathy cette fois-ci pour reprendre encore le direct et faire deux heures de couverture du festival avec plein d'invités dedans. Néanmoins, bien que malgré tout cela, tout de suite maintenant, que va-t-il se passer ? Eh bien, une petite émission, encore une fois, donc consacrée au Festival des Arts de la Rue, avec Pierre Prévost, notamment, qui est le nouveau président de la Fédération Nationale des Arts de la Rue. Excusez-moi si j'ai des petits problèmes d'articulation, c'est parce que je manque de sommeil, mais je crois que c'est le cas de tout le monde aujourd'hui. Aurélien est avec moi aujourd'hui encore, Aurélien Marteau, qui fait partie du Fourneau.
Salut Paco.
Et qui m'aidera notamment à interviewer les prochains invités qui seront notamment Mike Martins et Jean-Pierre Marcos, qui font partie d'une structure qui s'appelle le ZEPA, Zone d'éducation prioritaire agricole.
C'est tout à fait ça.
L'un est de Winchester, l'autre de Amiens. On retrouvera aussi, non je déconne, c'est pas tout à fait ça que ça veut dire, Zone européenne de projets artistiques. À 11h30, on retrouvera des compagnies anglaises, justement, avec notamment Kiki et Pascal, alias Dave et Tamara. Et on retrouvera aussi Wet Picnic, deux compagnies donc anglaises qui ont enflammé les rues de Morlaix hier soir. On retrouvera Gypsy Burek qui ont fait pareil à midi. C'est une espèce de collaboration entre des Roumains et des Brestois.
Macédoniens.
Des Macédoniens. Oui, pardon, excuse-moi, c'est juste un petit peu au sud. Des gens de Kotchani, si je comprends bien.
C'est ça. Du Kotchani Orchestra, qui est d'accord, dans le genre assez connu et qui tourne de plus en plus en Europe. Et voilà, ça, c'est un mélange avec des musiciens de la Pointe-Bretagne.
Quand les Bretons et les Macédoniens se mettent ensemble, ça fait des galettes à la Macédoine et c'est pas mal. Gypsy Burek, tout à l'heure à midi, on espère d'avoir un petit live ici. Et puis on aura les Alama Givré qui portent décidément bien leur nom. Il y avait aussi une formation malgache dont j'ai oublié le nom, mais peut-être que tu vas pouvoir m'aider.
C'est la compagnie Zouloubé qui est invitée du festival et qui organise un festival, le premier festival de tête de rue à Madagascar.
Voilà. D'accord.
Ils sont invités du festival. D'ailleurs, ils ont enflammé le bar hier soir.
Voilà, alors hier soir, ils ont pris leur clou, comme on dit dans le jargon des musiciens. Qui un djembé, qui un instrument dont le nom m'échappe, mais qui sert à faire chic-chic. Typique de l'instrument indien. D'ailleurs, Daniel Waro joue avec tout le temps et tout. Si ça vous dit quelque chose, peut-être que vous voyez l'image de l'instrument dont je parle. Alors, ce qui s'est passé, hein, c'est que la veille, il y avait les Malgaches qui étaient déjà là, mais ils n'avaient pas leur clou ni leur costume. Et ils ont vu le Jiti Burek enflammer le bar de, je sais pas, la fin de leur concert, d'environ 22-23 heures, jusqu'à 2h ou 3h du matin. Les Jiti Burek n'ont pas arrêté de jouer pendant des heures et des heures. Les Malgaches, je les ai vus, j'ai dit, oh. Ah, ils étaient là. Ah, nom de nom. Mais bon sang. Mais, gast, comme on dirait en breton. Pourquoi n'ai-je pas amené mon clou? Et résultat, hier soir, ils étaient là, en costume, avec leur djembé, et ils ont envoyé la sauce. Rappelle-moi le nom de cette compagnie.
Zolobé.
On les écoute, tiens, c'est enregistré hier au bar du festival. C'était drôlement bien, donc les Malgaches qui donc ont un festival, tu nous disais Aurélien,
qui
met en place un festival à Madagascar, et peut-être qu'il y a, on dirait, des partenariats entre le fourneau et ce festival.
Disons qu'il y a des passerelles qui se font, des rencontres, voilà, c'est comme, toujours comme ça, hein, des projets, c'est d'abord des rencontres humaines, et voilà, ça nous fait plaisir d'accueillir ces artistes sur le phare.
Qui sont quand même impressionnants dans le sens la patate, la pêche, l'énorme
impressionnant
énergie.
Parce que organiser un festival de théâtre de rue à Madagascar, c'est beaucoup aussi de trouver les moyens, c'est de la débrouille, c'est de l'investissement humain. Voilà, c'est quand même il faut avoir comme tu dis la patate, la niaque pour depuis 3 ou 4 ans, il me semble, des 3 ou 4e édition. Voilà, je crois qu'il faut en vouloir. Et surtout, vu le contexte politique incertain et instable de cette île, d'arriver à continuer à offrir aux gens des moments comme ça pour se retrouver autour de spectacles, je crois que c'est essentiel. Et donc,
On va dire que c'est pas forcément la priorité actuelle du gouvernement malgache de faire la promotion du théâtre de rue à Madagascar. C'est peut-être plutôt d'essayer d'avoir un maximum de pognon dans les poches.
Ouais, de piller les ressources de l'île et d'en faire profiter un petit nombre. Voilà,
malheureusement. On ne dira pas de mal du gouvernement malgache dans cette émission tout le temps. Nous allons aborder un autre sujet avec nos invités. Mike Martins est avec nous. Est-ce que j'ai bien prononcé comme il fallait, Mike?
Oui, non, c'est parfait. Oui.
C'était bien.
Hello.
Mike Martins,
hi.
Hello. Hi. Et puis aussi Jean-Pierre Marcos qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Mike est de Winchester, en tout cas représente Winchester. Voilà, il travaille pour les fusils.
Festival Hatfair.
D'accord. Ouais. Winchester, c'est pas seulement des fusils, c'est aussi un bled en Angleterre qui notamment accueille un festival de théâtre de rue.
C'est ça.
Et puis Amiens, donc Jean-Pierre Marcos pour représenter Amiens, Jean-Pierre Marcos, donc partenaire français ZEPA. Alors ZEPA, ça n'est pas une zone effectivement d'éducation prioritaire agricole. Est-ce que quelqu'un peut nous dire, Jean-Pierre, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est qu'une ZEPA ou un ZEPA? Enfin, c'est une apparemment.
Bah, je crois que c'est un beau mot poétique, quoi, pour dire que on est dans le rassemblement d'un certain nombre de partenaires anglais et français pour mener un beau combat qui est celui des arts de la rue, et on a créé un nouveau territoire, parce que nous on n'aime pas forcément les territoires nationaux comme ça, à dire on est français, on est anglais, on essaie de faire en sorte qu'il y ait une transcendance de tout ça, et donc on a créé une nouvelle zone, c'est pour ça qu'on appelle zone européenne de projet artistique, parce qu'en fin de compte, on a créé un nouvel espace entre le nord de la France et la pointe Bretagne, avec Brest, le Fourneau, et puis Gloucestershire en Angleterre et Southampton. Donc ça fait quand même un beau territoire, disons, qui est transmanche, qui peut être utilisé, travaillé pour développer les arts de la rue.
Et donc ça va servir à quoi? À développer les arts de la rue, mais concrètement, comment?
Concrètement, d'une part, en essayant de mettre en place d'abord des échanges artistiques. Vous avez vu que dans le programme du Phare et de Morlaix, cette année, il y a beaucoup de compagnies anglaises. Donc ça, c'est déjà le travail qu'on mène depuis une dizaine d'années, nous, en amont, avant de... que le Fourneau vienne nous rejoindre dans cette aventure. On a commencé à travailler sur les échanges, d'ailleurs avec Mike, qui était à l'époque encore artiste, il n'était pas producteur et diffuseur de spectacles. Et donc on a monté des échanges croisés entre les compagnies anglaises et les compagnies françaises. Et puis il y a un deuxième mouvement qu'on a engagé il y a à peu près maintenant 3-4 années, avec une compagnie anglaise qui s'appelle Wheelworks, qui était une compagnie qui travaillait en Cornouailles. On a mis en place ce qu'on appelle des compagnies associées, c'est-à-dire que les compagnies, une compagnie française et une compagnie anglaise travaillent sur les 9 territoires, c'est-à-dire qu'il y a 9 villes et partenaires qui travaillent ensemble. Je peux simplement les citer: Gloucestershire en Angleterre, Brighton, Winchester, Chatham et Southampton, c'est ça?
Winchester.
Et en France, donc Amiens, Los Angeles, culture commune, et Le Fourneau à Brest et Amiens.
Et Sotteville-lès-Rouen.
Et Sotteville-lès-Rouen, l'atelier de 131.
Voilà. Qui donc est un autre centre national des arts de la rue, au même titre que Le Fourneau.
D'accord. Est-ce qu'il y a en Angleterre, Mike, est-ce qu'il y a des structures équivalentes aux centres nationaux des arts de la rue en France, des choses comme ça?
Non, c'est pas la même. J'ai parlé un peu en anglais avec les traducteurs. Oui. No, and there's not the same structure in terms of creation centers.
Il n'y a pas la même structure en termes de centres de création.
But there is a lot of street arts festivals, more and more street arts festivals every year.
Mais il y a de plus en plus de festivals des arts dans la rue chaque année.
And a big movement of artists from indoors to outdoors, from dance to street theatre. So the art is there.
Donc il y a une grande panoplie d'artistes différentes, donc ça se passe dans la rue, à l'intérieur des théâtres, de plusieurs sujets différents, genre la danse, le théâtre.
But it's very different comparing to something like Le Fourneau or out in Amiens or in the Atelier in Rouen. These things don't exist yet, but with this partnership we hope we can begin to make these things happen.
Donc ce n'est pas du tout pareil qu'ici au Fourneau. Ça n'existe pas en Angleterre pour le moment, mais avec les organisations qui se passent maintenant, ça commence à prendre pied.
Alors, quelles organisations?
Which
organization?
Comme le ZEPA.
In Chatham, in the southeast of England, within ZEPA, there is another partner in Chatham.
Donc il y a un autre partenaire à Chatham.
And we're working in an old dockyard.
Il travaille dans un vieux port, en fait.
And with a space here, we're developing a space there to be a center for artists to make and create work for theatre in the street.
Et donc il commence à développer un centre pour que les artistes commencent à créer des spectacles de rue.
Oui, parce qu'il faut, bah oui, de l'espace. Enfin, si on prend par exemple la compagnie Luc Amoros qu'on a vu hier, vous imaginez, là, il faut je ne sais pas combien de hauteur de plafond, il faut des hangars, il faut des friches peut-être industrielles à récupérer. Enfin, y a un travail qui est fait sur ce domaine par peut-être notamment le ZEPA, chercher des lieux comme ça.
So they need to do some things, you need a lot of space.
Yeah.
And do you have things to make that?
No. At the moment it's very difficult, but with the partnership with Zappa.
Pour le moment, c'est très difficile de faire tout ça, mais avec le Zappa comme partenaire.
It's possible for English artists to come to France to maybe work in Le Fourneau.
C'est possible pour que les artistes anglaises viennent en France et participer aux organisations comme Le Fourneau.
So it's a very good way to show the artists and the politicians in England what is possible.
C'est une bonne manière de montrer aux artistes et aux gens de la politique qu'est-ce qui est possible à ramener en Angleterre.
Alors si je comprends bien, les artistes français ont besoin de travailler avec, enfin les artistes anglais, pardon, ont besoin des Français pour bosser. Si je résume, c'est ça.
Ouais, ouais, yeah, yeah. They need.
Mais c'est la honte, c'est la honte pour le gouvernement anglais.
Mais c'est vrai que c'est un des
paradoxes. Que fait le ministère de la culture ?
C'est vrai que c'est un des paradoxes.
C'est énorme.
C'est vrai que c'est un des paradoxes en Angleterre, c'est que on sent qu'il y a de plus en plus de festivals, il y a de plus en plus de demandes, d'attentes aussi et de la population qui voit aussi ces spectacles se développer, notamment de l'autre côté de la Manche. Et il y a pas aujourd'hui la structuration que le monde des arts de la rue a mis 20 ans à acquérir en France. Et il y a pas encore ça de l'autre côté de la
Manche. Est-ce que ça voudrait dire que les Anglais sont en retard par rapport à nous dans un domaine, pour une fois?
Dans ce domaine-là, c'est clair, oui.
Which street theatre? Yes, in terms of the structure.
En termes de structure, les Anglais ont pris quand même pas mal de retard sur
in
les.
Terms
les
of, in terms of the art, no.
Mais seulement dans l'organisation.
I think
Mike se réveille.
In terms of the art, I think we began at the same time.
Côté artistique, ils ont commencé au même moment.
In Paris, 1969, avec les Anglais et les Français. I don't know.
Non,
this
mais
is the story I like.
It's just a joke, évidemment. C'est juste une blague, mais on n'est pas là en train de savoir qui c'est qui est parti en premier dans les starting blocks. Quoique, mais non, on va pas aborder ça comme ça.
C'est un Américain, c'est Julian Beck. Hein, donc,
Ah, vas-y.
Ah oui.
Alors, raconte.
Celui qui commence tout au niveau de sortir les théâtres le théâtre du théâtre, ouais. C'est Julian Beck. Donc, c'est d'abord un Américain qui vient en France et en Angleterre en 1969 pour montrer qu'on pouvait faire du théâtre dans la rue, quoi. Donc, en fin de compte, toute l'inspiration, elle vient de Julian Beck, elle ne vient pas des compagnies françaises.
Et qu'est-ce qu'il faisait comme performance, monsieur?
Bah, il faisait un théâtre d'intervention qui était extrêmement politique, en plus. C'était très, très, très militant. Il a, en 69, pour une anecdote, il a mis à sac le Festival d'Avignon de Jean Villard.
C'est vrai.
Voilà, donc.
Il a foutu le bazar.
Il a foutu un gros bins au Festival d'Avignon, je dirais, de la même dimension qu'en 2003 avec les intermittents du spectacle, mais lui il était tout seul avec sa compagnie, donc c'était vraiment de l'intervention, de l'acte de création et d'invention, et qui était un peu destructrice. Jean Villard s'en souviendra quelques mois après, puisque de toute façon il ne supportera pas cet affront qui lui a été fait. Et en même temps, c'est quand même Julian Beck qui va mettre en place toute l'inspiration, disons, philosophique des arts de la rue. C'est lui qui va donner la possibilité aux compagnies françaises de s'inspirer de ça. Et je veux dire, Jean Digne, en 1973, à Avignon, va créer à Aix-en-Provence, va créer le premier festival de rue qui s'appellera Aix ouverte aux saltimbanques.
D'accord. C'est intéressant. Donc, c'est les Américains, encore une fois, qui sont en avance. C'est dingue. Mais bon, il faut dire qu'il y a aussi, effectivement, peut-être, j'ai envie de dire, une relation entre le mouvement 68art, peut-être en France, et les premières compagnies du tête de rue en France.
Oui, mais en même temps, bon, on peut dire qu'ils sont les premiers, mais maintenant, ils en ont plus. Ils ne font plus rien, les Américains.
Ah ouais.
Donc,
Américains font plus rien.
Ils ont eu Julian Beck, ils l'ont chassé.
Ouais.
Ils l'ont envoyé vers l'Europe. C'est pour ça qu'ils sont installés en France et en Angleterre.
D'accord.
Et donc, à partir de là, je veux dire, les États-Unis ne font plus de théâtre de rue. Enfin, je veux dire, c'est.
Il n'y a pas de théâtre de rue aux États-Unis.
C'est inexistant aux États-Unis, ouais, le théâtre de rue.
Ouais. L'espace public, l'occupation de l'espace public.
Est payant, donc,
très, très réglementé. Voilà. Et voilà, je crois qu'à partir du moment où on n'a pas les clés de l'espace public, comment on fait pour que les artistes puissent
donc
y produire?
Il y a deux pays où le Royal de Luxe n'a pas pu se produire, c'est au Japon et aux États-Unis, quoi. Parce que de toute façon, l'espace est payant, que ce soit au Japon ou aux
États-Unis.
L'espace public est payant. On ne peut pas utiliser l'espace public sans payer.
Mais sans en payer qui, quoi?
Bah, payer la mairie, la
collectivité
ou l'institution privée, parfois, qui détient la propriété d'une route ou d'un trottoir.
Parce que c'est pas forcément la ville qui construit des routes et des trottoirs.
Alors c'est vrai que quelque part ça, c'est un paradoxe du coup, parce que les États-Unis qui vantent partout leur liberté, nous sommes le pays de la liberté, en fait c'est faux, enfin vrai jusqu'à un certain moment.
Dans leur
esprit, on est libre mais si on paye quoi.
Bah dans leur esprit, avoir la liberté, c'est d'avoir la liberté de construire des routes et des trottoirs.
Hein. Liberté,
c'est pas forcément de faire du théâtre de rue.
D'accord, très intéressant ma foi. Alors le ZEPA, zone européenne de projets artistiques, donc on l'a dit, c'est des lieux qui se mettent en accord. Comment ça va se passer en Angleterre, la structuration finalement, est-ce que ça avance de ce côté-là? Vous disiez qu'on avait un petit peu de retard en Angleterre sur la France au niveau du structurage, de la structuration, je ne sais pas comment on dit.
Structuration.
Structuration, ça marche? On a le droit? Ouais. Est-ce que ça avance et comment ça avance?
Yeah, it's becoming more and more and more popular.
Ça devient de plus en plus populaire.
I think there's a sense that less people are going to mainstream theatre, normal theatre.
Il y a beaucoup de moins de gens qui vont au théâtre pour voir des choses beaucoup plus théâtrales entre guillemets.
So more and more artists are seeing the street as a new stage, a new challenge, a new adventure.
Et ils voient que la rue, au fait, c'est un nouveau aventure, au fait.
And of course, with this, there's a new the audience is developing, also the public is developing.
Le grand public se développe aussi, ça attire beaucoup plus de gens.
So now, for example, in Winchester, our festival, the festival is very old. The festival is 36 years old.
Par exemple, à Winchester, le Hat Fair, c'est très vieux. Ça se passe depuis 36 ans.
Mais, but in the last 3-4 years, it has become enormous.
Et depuis les derniers 3 ou 4 ans, ça devient énorme.
More and more people, more and more public. For us, it's moving very quick.
Plus de gens, plus de spectateurs, ça se développe très vite.
Right. So now it's a very, very, very exciting time for street theatre in the UK. But also it's difficult.
Donc c'est une période très très excitante, mais c'est aussi très dur.
Et je voulais demander à Mike justement, c'est vrai qu'en France on continue à dire que parfois le théâtre de rue ou des artistes qui se produisent dans la rue ont une image assez différente des artistes qui se produisent à l'intérieur, comme si c'était quelque chose d'une
strictement séparé, ouais.
Voilà, ou même un sous-spectacle vivant. On entend aussi ces choses-là, question de crédibilité artistique de ce qui se passe. Et je crois que quelqu'un qui est allé dans un festival comme à Morlaix bien sûr et un peu partout comme il en existe, sait que les propositions sont des propositions artistiques très très fortes. Mais quelle est l'image au niveau des institutions, au niveau médiatique du théâtre de rue en Angleterre?
It's a good question. Very very badly.
Les journaux et côté médiatique, les artistes de rue sont vus très mal.
Yeah, it's very very difficult to get journalists to come and to review street theatre or festivals.
C'est dur d'avoir des journalistes à venir voir et faire des revues sur des festivals de rue.
There's only one journalist with a national newspaper.
Il n'y a qu'un seul journaliste d'un journal national.
Who is very very interested in street theatre, has been for a long time.
Qui est très intéressé par le théâtre de rue et a été depuis un long moment.
So she will write things, she will try and make it more popular, more clear and have more reviews, more intellectual debate about street theatre.
Donc cette journaliste va essayer de faire développer les vues des autres personnes et la vue des artistes. En essayant de faire venir de plus de journalistes à avoir des débats beaucoup plus intellectuels.
But to be honest, unless the show is massive with maybe 1 million people in the audience, unless it's something really really big, it's very very difficult to have any press, any coverage.
Mais si c'est un festival où il y a pas beaucoup de monde, s'il y a environ 1 million de gens qui sont là. Il y aurait les journaux vont s'intéresser. S'il y a moi, ils voudraient pas entendre parler.
But this is something also within ZEPA, within the partnership, another project within the ZEPA network, within the partnership.
Et ça, c'est un autre projet qui est à l'intérieur du ZEPA.
Is to possibly work with French journalists to come to England to try to begin and you are our revolution with the press.
Donc ils veulent essayer de faire venir des journalistes français pour commencer leur propre révolution avec la presse.
Eh bien, je viens quand tu veux, hein, Mike, tu m'appelles, Canal B, Rennes, Paco, tu me dis, je viens à Winchester pour participer à des émissions de radio, si tu veux. On monte le plateau, là, on l'emmène. Hein,
je viens aussi.
Tu viens aussi, Aurélien? Ouais. Okay, ça
roule. Be very welcome.
On est bienvenus. Les projets à court terme du ZEPA, Monsieur Jean-Pierre Marcos, Damien.
Je peux faire un petit commentaire simplement sur les arts de la rue et théâtre. Je crois qu'il ne faut pas opposer l'un avec l'autre. C'est-à-dire que quand j'ai cité Julian Beck tout à l'heure, il n'opposait pas le théâtre dans la salle avec le théâtre dans la rue. Il disait qu'en fin de compte, le mode d'expression qu'il proposait devait prendre l'espace urbain comme lieu de représentation. Mais là, on n'était pas dans une opposition avec le théâtre en salle. On était dans un autre projet artistique, dans une autre construction artistique. Et ce que disait Aurélien tout à l'heure est tout à fait juste, c'est que depuis une trentaine d'années maintenant, les compagnies d'art de la rue se sont construites des projets artistiques forts qui viennent en subversion de l'espace urbain, parce qu'en fin de compte, ils utilisent une mairie, une église, un centre commercial, une place publique. Ils l'utilisent de manière différente de ce qu'elle l'est habituellement, et c'est dans ce terme-là que la subversion, je dirais, urbaine se fait, mais elle se fait artistiquement, elle ne se fait pas uniquement une gestuelle, je dirais, un peu désordonnée. C'est vraiment un travail de création qui est proposé, et nous, en tout cas, je pense que le président de la Fédération des arts de la rue, Pierre, tout à l'heure, vous dira la même chose. Je pense qu'on n'oppose pas le théâtre en salle avec le théâtre de rue.
Voilà. Oui, alors j'ai envie de contre-argumenter aussi de mon côté en disant, mais finalement, si les artistes sont allés dans la rue, c'est aussi parce qu'il n'y avait plus de place dans les théâtres. C'est parce que ces endroits étaient fermés et uniques et réservés finalement à certaines compagnies sur des choix sans doute justifiés. Mais il n'y a pas assez de place, il n'y a pas assez de théâtre aussi.
Enfin, on pouvait peut-être dire ça il y a 20 ans ou 30 ans, mais aujourd'hui, quand on voit le territoire national et le nombre de salles de théâtre qui se sont créées en 20 ans ou 30 ans dans toutes les communes,
il y avait quand même un besoin, quoi.
Il y avait quand même un besoin à ce moment-là, mais le besoin ayant été globalement, je dirais pas réglé, mais en tout cas en France, vous allez en Angleterre, vous verrez la différence, le nombre de salles de spectacle et de lieux de représentation en théâtre est énorme, c'est phénoménal ce qui s'est passé en 20 ans, grâce aux collectivités locales, là c'est vraiment, ce sont les collectivités locales qui ont pris la main sur l'État pour aménager les salles de théâtre ou des salles de représentation pour le théâtre. Par contre, parallèlement à ça, les arts de la rue se sont développés sur leur propre base, c'est-à-dire un travail de création pour aller rencontrer les gens dans la rue et aller se confronter au public qui, en effet, ne va pas dans les salles de spectacle, ne va pas dans les concerts ou ne va pas au théâtre. Mais néanmoins, il y a quand même une création authentique autour des arts de la rue qui s'est développée, pas simplement en révolte par rapport au théâtre de salle, mais aussi parce qu'il y avait un besoin de rentrer en communication. On voit bien à Morlaix, quand on est dans les rues de Morlaix pendant le festival, je veux dire... moi, je pense que je m'emmerderais à Morlaix s'il n'y avait pas le théâtre de rue, quoi. Voilà. Et à chaque fois que je vais dans un festival, je prends plaisir à vivre dans la rue avec les artistes et à être avec eux, quoi.
Il y a un monde absolument délirant, hein, à Morlaix pour ce festival. C'est la folie totale. Je sais pas combien il y avait de personnes pour Lucas Moreau aussi hier, mais c'était de l'ordre de 2 ou 3 000 personnes sur la place.
Au moins.
C'est assez délirant. Hein.
C'est vrai que même Morlaix est un bon exemple de ce que disait Jean-Pierre, c'est que le festival, donc il y a 24 ans, il a été créé par le directeur du théâtre. Et le directeur du théâtre, il ne l'a pas créé parce qu'il n'y avait pas de place dans son théâtre. Il a vidé son théâtre, il a invité les artistes avec lesquels il travaillait d'aller dans la rue pour aller rencontrer le public et travailler d'une autre forme, forcément, parce qu'on n'est plus du tout sur le même rapport scénique, le même rapport frontal. D'ailleurs le théâtre de Morlaix est un magnifique théâtre qui est fermé d'ailleurs en ce moment.
Oui, on peut bien en parler d'ailleurs.
C'est un autre débat, un magnifique théâtre à l'italienne. Ouais. Il a vidé son théâtre pour mieux parler à la ville et pour mieux accompagner les artistes
le aussi,
dans le territoire dans lequel était son théâtre. Et je crois que c'est plus cette dynamique-là. C'est pas parce qu'il n'y avait plus de place dans les théâtres, c'est autre chose, c'est une autre envie artistique, c'est une autre envie humaine, c'est un autre rapport au public. Je crois que c'est plus dans ce sens-là que ça s'est développé.
Et d'ailleurs, effectivement, le public finalement de la rue est peut-être un public plus... moins spécialisés, moins blasés, mais tout aussi dangereux dans le sens où si le spectacle ne fonctionne pas, il s'en va, alors que dans la salle, c'est plus compliqué, on a payé. Ouais. Alors,
vous aviez posé une question concernant le développement du ZEPA.
Voilà.
Simplement, là, on
et
va.
Et l'avenir proche?
L'avenir proche, c'est que nous avons deux compagnies associées avec lesquelles les 9 partenaires vont travailler. C'est d'abord North East Head Circus qui travaille en Angleterre, qui est une compagnie de cirque et d'art de la rue, avec lequel nous allons travailler, les 9 partenaires vont travailler pendant les 2 ans, 2011-2012. Et en France, le choix a été fait de travailler avec Generic Vapeur, qui va être la compagnie associée des 9 partenaires en Angleterre et en France. Ce que disait notre ami Claude, le directeur, co-directeur du festival, c'est que Morizur, c'est qu'en fin de compte, ce travail-là, c'est une, et j'aime bien son expression, c'est une écriture à 9 mains. C'est-à-dire qu'en même temps, on va travailler les 9 partenaires ensemble autour de ces deux compagnies. Et ces deux compagnies, en même temps, l'intérêt que nous avons, c'est qu'elles sont allées dans la phase en 2010, elles sont allées sur le territoire rencontrer des populations, écouter les histoires qui se passaient dans chacun de ces territoires, de ces pays, pour essayer d'imaginer la création qu'elles allaient faire, de manière à ce qu'elles se transmettent un petit peu des informations. On a eu un colloque à Chalon il y a peu de temps sur l'infusion, c'est-à-dire qu'il y a diffusion et infusion. Et je pense que là, dans le cadre de North East Head et de Generic Vapeur, on va être dans l'infusion artistique, c'est-à-dire se plonger dans le territoire et puis en même temps essayer de sortir, sentir un petit peu les senteurs, les saveurs particulières, les histoires particulières, de manière à ce que ces créations soient totalement originales.
Alors vous avez participé à une réunion, c'est la rencontre européenne, c'est ça?
Oui.
Est-ce qu'on peut avoir vite fait un bilan de cette réunion autour du sujet qui était la mobilité artistique, un levier pour une citoyenneté européenne?
Peut-être que vous pouvez traduire pour que
alors,
je parle tout le temps.
Oui.
I think there's a lot of mobility with artists.
Il y a beaucoup de mobilité avec les artistes européens.
I think it's very good for for me it's very important with ZEPA that we move a lot of people around.
C'est important pour que avec la ZEPA ils fassent bouger beaucoup de monde.
So from that perspective I think it's a big success already.
Donc de cette perspective, c'est déjà un grand succès.
There's more French companies in England this year, and there's more English companies in France this year.
Il y a plus de compagnies françaises en Angleterre cette année et beaucoup plus de compagnies anglaises en France.
Yeah, and I think it's really important for the artists to move, to meet each other, to meet new audiences.
C'est important pour que les artistes bougent, pour qu'ils rencontrent un nouveau public et d'autres artistes.
And to develop your work so you can play to different cultures and different languages is a very special, unique thing to be able to achieve.
C'est important pour développer leur art avec beaucoup de cultures et de langages différentes.
But one thing we didn't talk about yesterday in the meeting, which I thought afterwards.
Une chose dont vous n'avez pas parlé hier dans votre réunion.
Was by having the structure of the creation centres, the centres to make work in France.
En aidant les centres qui créent du travail en France.
I think then you have another layer of mobility.
Ça ajouterait un autre façon de mobilité.
And I think if we could have something like this in England also.
Et si on pouvait avoir quelque chose comme ça en Angleterre.
Then maybe we could have a French company for 1 month. Living in a creation center in England to meet more English artists, to really have a relationship with the artists.
Il pourra avoir des troupes françaises qui viennent dans les centres en Angleterre pendant un mois pour vraiment avoir des liens artistiques avec d'autres artistes.
Okay. So,
but it's happening.
It's happening.
And
ça arrive.
It's going to be more and more. Sorry, but there's going to be
plus
more
en plus.
And more.
Et ça c'est cool. Alors Mike Martins, pour finir rapidement le nom de votre compagnie. What is your company, Mike?
It was my company. Oui. Mike is from Winchester Hat Fair. And also with Out There Festival in Yarmouth.
Okay.
Was that your question?
Donc c'est le festival du Hat Fair à Winchester.
Mais il était artiste aussi.
Oui, avant. Oui.
Ah non, ah, no, at the moment, no. I'm having a rest.
Il est plus artiste maintenant.
Il n'est plus artiste.
Non, I'm resting.
Au revoir.
Non, non, c'est pas terminé, c'est pas fini.
Et c'était quoi?
Just in rest, in sabbatical.
It was what?
A company called Three Monkey Productions.
Une compagnie qui s'appelait Les Productions des Trois Singes.
It was very, very, very funny.
C'était très, très drôle.
Je crois qu'on a compris. C'était funny. Et c'est... Oui, Jean-Pierre ?
Ouais, moi, je voulais simplement dire un mot, parce que je trouve que c'est bien qu'on ait le temps de s'exprimer. C'est tellement rare à la radio, parce que d'une manière générale, c'est 3 minutes, et puis après, vous avez terminé. Donc ça, c'est un vrai plaisir. Donc, je vous remercie pour ça.
De rien.
Et puis, voilà, non, ce que je veux dire, c'est que le ZEPA, il n'existe que... Et comme on tape souvent sur l'Europe, je voudrais quand même dire que le ZEPA, il n'existe que parce que l'Europe a proposé des possibilités de financement et de coopération transfrontalière entre les Allemands et l'Alsace-Lorraine.
Des réseaux qu'on appelle Interreg, voilà, Interrégion. C'est le nom du
réseau
programme.
Réseau Interrégion, voilà, Interreg, et qui permet en fin de compte de financer. Alors, dans le document d'orientation européen sur les questions d'Interreg, la partie culture est à la 68e page et elle doit prendre 2 lignes. Ah ouais. Voilà. Donc, surtout, il ne faut pas les rater parce que sinon, après, vous ne trouverez rien sur la culture dans ces pages-là. Mais simplement, ce que je veux dire, c'est que avec le ZEPA, avec le PK avant le ZEPA, on a quand même organisé un espace, je dis entre guillemets, de résistance, puisqu'en fait, on a réussi à obtenir de la communauté européenne et notamment de la direction de la culture à Bruxelles que les dépenses artistiques soient éligibles. Parce qu'il faut quand même savoir que il y a deux ans, dans le précédent programme, l'Interreg 3, là aujourd'hui, on est dans l'Interreg 4. L'ancien programme ne permettait pas aux opérateurs culturels de prendre en compte les dépenses artistiques comme éligibles au subventionnement européen. Donc on a fait une procédure auprès de la direction des affaires culturelles de Bruxelles et on a obtenu gain de cause. Et aujourd'hui, donc tout ce que nous faisons au niveau du ZEPA est financé au titre des dépenses artistiques, c'est-à-dire qu'un artiste est considéré, ce qui est quand même vraiment un progrès énorme dans des pays démocratiques comme la nôtre, est considéré comme un salarié à part entière, comme un universitaire qui souvent était payé à la fois par l'université et payé par les fonds européens. Voilà. Donc on a dit il n'y a pas de raison que les universitaires puissent être éligibles et que les artistes eux ne soient pas éligibles. Donc voilà. Donc c'est une bataille qu'on a gagnée grâce. C'est une bonne nouvelle. Ouais, c'est une bonne nouvelle et en même temps
c'est une reconnaissance aussi du métier d'artiste.
Voilà, du métier d'artiste au niveau européen. Alors il y a des dispositifs culture Europe qui eux l'ont déjà pris en compte, mais les dispositifs Interreg ne le prenaient pas en compte. C'est-à-dire, c'est évidemment, il y a plusieurs administrations au niveau de l'Europe, et évidemment, cette administration-là avait considéré que c'était pas important. Voilà. Donc, je vais simplement dire ça. Donc, l'Europe nous aide quand même de manière très importante, hein, sur ce dispositif. Et en même temps, par rapport au colloque d'hier, ce qui est vraiment très, très, très fort et très, très prenant, c'est qu'en fin de compte, le travail que nous mettons en place, c'est un travail qui doit permettre aux artistes, et c'est pour ça que hier, on s'est aussi adressé aux artistes de manière extrêmement forte, en leur disant, regardez bien cette zone nouvelle de travail entre l'Angleterre, le sud de l'Angleterre et le nord de la France, du Pas-de-Calais à la Bretagne, parce qu'en fait, c'est un espace sur lequel vous allez pouvoir travailler dans les années qui vont venir.
Souhaite.
Et donc, il va falloir continuer à imaginer, à travailler, à nous faire des propositions, parce que même nous, pour continuer le travail dans les années qui vont venir, on va avoir besoin de cet imaginaire nouveau.
Voilà. D'accord. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on a bien abordé le sujet. Jean-Pierre Marcos, donc partenaire français du ZEPA d'Amiens. Et le
chef de file d'ailleurs.
C'est notre jargon.
Jean-Pierre Marcos est le chef de file de ce réseau.
On sent qu'il est investi par.
Il connaît bien son sujet.
C'est une mission pour le Seigneur. ZEPA, donc zone européenne de projet artistique. Bah, merci d'être venu dans cette émission pour nous parler de ces choses qui sont parfois fort nébuleuses pour le public, pour les artistes, pour les auditeurs de Canal B, pour les gens qui vont voir comme ça un petit spectacle et puis qui sont plutôt d'habitude musique actuelle ou je sais pas quoi, qui vont en concert. On comprend rien dans tout ça. Mais c'est bien de nous avoir éclairé là-dessus, Jean-Pierre et Mike. On va faire un petit clin d'œil à l'Angleterre en s'écoutant un petit clash. Tiens, maintenant, One More Time, In the Ghetto, Some Street Theater. Ce serait drôlement bien. Merci beaucoup.
Merci,
bonne chance pour la suite.
Merci.
One more time, bah c'est le dernier temps pour cette couverture du Festival de Morlaix. Je vous le rappelle, on est en direct depuis le phare Festival des Arts de la rue de Morlaix. Le petit studio Canal B est installé dans une petite école qui est le lieu de rencontre, de croisement des artistes. C'est aussi là que les artistes vont manger. Il y a un petit bar sympa où on peut boire des apéros à non plus finir. On est quand même en Bretagne, faut pas déconner non plus. Et donc, cette petite émission est la troisième de la couverture Canal B Fréquence Mutine sur le Festival de Morlaix. Je vous le rappelle, on est en direct sur Rennes, on est en direct sur Brest via ces deux radios et aussi sur le site du Fourneau. Vous tapez le Fourneau sur Google et vous trouverez très facilement le site de cette structure qui est un CNAR et qui organise le Festival des Arts de la Rue. Qu'est-ce qu'un CNAR ? Un Centre National des Arts de la Rue. Est-ce que j'ai tout bon, Aurélien, qui est avec moi pour m'aider ?
Tout à fait. Et je voulais remercier Kelly qui vient de nous quitter, qui faisait la traduction pour Mike Martin. Voilà
Kelly, franco-anglaise, qui nous a aidé sur la traduction avec les Anglais. Mais ça n'est pas fini avec la perfide Albion, puisqu'on retrouve maintenant et tout de suite... Non, j'ai dit une connerie. Je vois bien dans le regard.
Et wet picnic, qui signifie
pique-nique humide, mouillé.
Bravo, rappelez-vous super, de ce groupe qui s'appelait Wet Wet Wet, qui nous a envahi les oreilles à une époque, un groupe anglais de pure daube. Wet Picnic est avec nous aujourd'hui. C'est une compagnie qui nous vient d'où ?
De Winchester.
Mm-hmm. C'est un mot magique, Winchester. Je pense tout de suite à Blueberry ou à je sais pas quoi, ou à un western avec des cowboys, des Lucky Luke et tout ça. Winchester, donc, qui a son festival, on en a parlé tout à l'heure. Comment font-ils pour vivre les Anglais, eux qui n'ont pas l'intermittence ? C'est vraiment la première question qui me vient.
Alors, comment font-ils ? How do you do to earn money because we have a special statute ? We have a special statute in France called intermittence. So when we don't play, you are paid. If you... Yeah. Work a lot for a year, and then the year after you are paid. So, what in England you do to earn money?
We got no money.
We do. Par contre, c'est drôle déjà.
Yes. we travel the country and we go to festivals, and the festivals pay us a fee. So there are kind of two ways to work street theatre in the UK anyway, and I assume it's the same here in France.
Et donc, il y a deux façons de gagner de l'argent à travers les festivals. C'est-à-dire qu'ils jouent beaucoup dans les salles l'hiver et en théâtre de rue l'été. C'est un peu ça.
So you can either hat in the street. So when you finish your show, you ask for money.
Ouais, et aussi dans les festivals, ils sont donc d'une part payés et en plus de ça, ils ont le droit de demander le chapeau.
Ah, ils peuvent être payés et demander le chapeau en même temps.
Au Hatfair, c'était ce qui se passait.
Or you do what we do, and festivals will book you and book a specific act, and then they pay you a fee. So that's how the company earns money.
Ouais, et puis on est justement payé par les festivals sans qu'on demande le chapeau, mais c'est ce qui se passe un peu en France aussi. Mais je pense que c'est un peu plus difficile en Angleterre, donc on essaye de jouer un maximum.
Alors ça c'est marrant parce que donc nous sommes avec Graham, Kelly et Ronan, de la compagnie qui propose Wet Picnic. Non, c'est la compagnie Wet Picnic, pardon.
Wet Picnic.
Et qui propose un pique-nique complètement hallucinant. On va en parler de toute façon. Mais alors Ronan, toi, tu es dans une compagnie anglaise. Ouais. Comment c'est arrivé alors que tu es apparemment n'es pas forcément anglais.
J'étais à l'école dans la même école que le directeur de la compagnie. À l'école Lecoq à Paris. Et j'ai passé l'audition en juillet dernier et ça a marché. Et maintenant, c'est super. Quoi.
Et donc, tu fais maintenant une espèce de danse contemporaine autour d'une table d'un dîner anglais. C'est ça.
C'est un spectacle. Je pense qu'il n'y a pas besoin de comprendre l'anglais pour comprendre le spectacle.
oui, tout à fait. C'est un dîner d'amoureux, on va dire. Franchement, Destroy. Enfin, Destroy. Ouais. Drôle, est-ce que ouais.
Un peu,
comment tu pourrais le décrire?
Un peu délirant, un peu absurde, qui démarre de façon assez calme et puis qui évolue dans le rythme et puis dans la manière dont les événements s'enchaînent.
I'm just describing the play.
Oh.
And what adjective would you say about the play?
À propos
de describe. To describe us.
It's a tough one. It's a mixture of many things. I'd say it's a slightly farce, so slightly slapstick as well. So it's Charlie Chaplin and Buster Keaton, and that kind of really kind of old slapstick comedy.
Oui, c'est comme alors slapstick. Je n'ai
alors,
pas la traduction.
Il l'a dit en français. C'est une farce.
Yes.
Un petit peu.
Ouais, hein? C'est comme une farce un peu à la
à la Charlie Chaplin. Enfin, c'est un peu.
It's ouais. Very, very dirty.
Et ça devient très, très.
Alors voilà, ça, on allait l'aborder, t'inquiète pas, Kelly, on va y aller sur le côté dirty de ce spectacle. Parce que, bon, on peut le dire quand même aux auditeurs, de toute façon, je pense pas qu'ils viendront, on déflorera pas trop le spectacle, mais y a un délire autour de. J'ai envie de dire du rapport au manger, c'est-à-dire que les Anglais ont tel rapport avec le manger qu'ils s'en mettent partout, que c'est quelque chose comme ça.
Les Anglais sont un peu dans les extrêmes, c'est-à-dire qu'il y a une énorme politesse, voilà. Des manières, et puis en dessous de ça, ils sont vraiment pas peur d'aller très très loin.
Et le trash.
Ouais, c'est ça. Ils sont capables vraiment d'aller dans les extrêmes, quoi. Même on peut le voir quand on sort en Angleterre, y a des filles qui sont super bien habillées puis qui sont capables de se mettre complètement par terre avec des grosses cuites et j'ai du mal à imaginer ça. Enfin, en France, pas pareil avec les...
Une sorte de dignité.
Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais c'est assez destroyant.
Alors on va lui demander à Kelly, why, pourquoi est-ce que tu te mets de la mayonnaise sur les bras, s'il te plaît? À quoi ça sert? Est-ce que les produits de beauté anglais ne sont pas de suffisamment haute qualité pour que tu t'en mettes sur la peau comme ça, de la mayonnaise? Surtout que la mayonnaise anglaise en plus. Bon. Alors pourquoi? Why?
It's all for fun, really. That actual scene, the end scene where I do cover myself in mayonnaise, came from a rehearsal we had where we were all playing with food and various objects, lard, grapes, cream cakes. We were improvising with them. And the mayonnaise unfortunately came out. And it all got a little bit messy. Yeah.
Donc l'idée de la mayonnaise est venue donc d'une répétition durant laquelle c'est un peu parti en live pendant le repas avec du lard et des saucisses et de la mayonnaise et tout ce qu'ils avaient sur la table. J'étais pas là lors de leur trouvaille, mais donc parfois en fait il faut vraiment savoir profiter de toutes les occasions pour créer un spectacle.
Alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est que... alors, le pire, c'est qu'elle utilise quand même quelqu'un du public. Si vous êtes invité à ce repas...
On ne les a jamais revus, les personnes.
Les personnes en fuite, partent en courant. Je ne veux plus jamais revoir ces gens. Il y a quand même un moment fantastique. Parce que hier, j'ai vu un extrait du spectacle. Le monsieur qui s'était assis à table jouait le jeu, était très content de participer à cette farce. Ouais. On le voyait. Et à un moment donné, Kelly lui envoie un grappin, enfin, un grain de raisin, hein, directement dans la bouche. Mais ça a marché tout de suite. Comment fait-elle? Elle a pris des cours, elle joue aux fléchettes dans les pubs ou quoi?
Je ne sais pas.
Parce que le grain de raisin est arrivé, mais direct dans la bouche du monsieur. Il a été lui-même très surpris, alors qu'elle était quand même à une distance d'environ 2 mètres, puisqu'ils étaient à chacun des bouts de la table.
The grapes, ouais. The way I... Oh, ouais. It's just practice. Just practice. I've thrown so many grapes into men's mouths.
You played darts?
Yeah. Oh, no. Yeah. I've just practiced throwing grapes into men's mouths. I've done it so many times now. I'm very experienced. People love it, don't they? That's what they want.
Elle s'entraîne beaucoup, notamment dans le van. Sur les ferries aussi, on essaye avec les gens parfois de voir leur réaction.
I also used to be on the netball team, so...
Faut imaginer quand même la dernière fois que j'ai vu ce spectacle, on était dans le salon Richelieu de la mairie de Brest pour la présentation officielle de l'entrée du fourneau dans le réseau européen ZEPA. Donc avec les adjoints à culture, adjoints à l'animation, etc. Ouais. Monsieur le sous-préfet est présent, donc une belle présentation. Et ils ont débarqué là-dedans avec ce qu'on disait, ce côté très 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 propre, très belle tradition, belle table, etc. Et qui commence tout d'un coup à partir en vrille au milieu de ce salon. Et c'était mémorable. Je garde un souvenir. Donc ça fait son effet dans la rue. Et moi je garde ce souvenir dans ce salon Richelieu. Et c'était vraiment très 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 fort.
D'accord. Merci. On va enchaîner avec l'autre compagnie anglaise qui est présente avec Tamara et Dave. Merci beaucoup. Wait Picnic, on vous retrouve encore aujourd'hui, je crois. Vous jouez
Wait Picnic. On joue à 18h22 et à 20h22.
Ouais, voilà, j'ai. Alors, bon, ouais. Ça correspond pas. C'est 18h20, 18h18.
À 18.
Là, moi, j'ai 20h20 et j'ai et aussi.
Voilà, il n'y aura pas 22h22.
Hein, 22h22, il n'y aura pas la nuit.
C'est le ferry.
C'est ça, on part en direction Calais, on joue à Liverpool demain.
Why did you engage this guy, this French guy? Pourquoi vous avez engagé ce français?
Just as a translator, that was it.
comme traducteur.
I mean, he's completely talentless.
Pour la nourriture et puis pour l'affaire du café.
Merci beaucoup, Wet Picnic. On va retrouver juste après une autre compagnie. Merci d'être venu. Au revoir, bonne chance, etc., etc. On va enchaîner tout de suite directement parce que ça... Ça file, le temps file et puis on arrive toujours à être en retard. On a tellement de choses à raconter. Je vous rappelle qu'on est au festival de Morlaix depuis une petite école et que on est en direct sur Canal B et sur Fréquence Mutine.
Sur Canal B.
African Anarchist Radio. All you free Negroes say yeah.
Yeah.
Bonjour, je suis Jean-Claude Lesbrouf, patron de la boîte de prod Cheap Jingle. Allez les gars, on leur montre un petit peu.
Canal B, le 4. Voilà, c'était les Cheap Jingle de Canal B pour enchaîner avec l'autre compagnie anglaise qui est présente donc dans les studios ici même à Morlaix dans l'école Capon Ben Kerr. Cette fois-ci, il s'agit de Dave et de Tamara qui sont présents pour trois spectacles. Hello.
Hello.
You speak French very fluently.
Oh, yeah, no.
No.
I speak a little bit.
Il parle un tout petit peu donc anglais, mais heureusement Kelly est français. Je veux dire, Kelly est venue nous aider pour la traduction à propos de cette compagnie. C'est une compagnie. C'est d'abord un couple peut-être. You're a couple first.
You're a couple before being a company.
Yeah. Yes. Yeah. Oh yes, very much so. Yes. We met 5, 6, 7, 8 years ago.
Ils se sont rencontrés il y a 7 ou 8 ans.
5, 6, 7. Yes, I think 8 years ago, and we were married 5.5 years ago, and we have 2 children.
Ils se sont mariés il y a 5 ans et demi et ils ont 2 enfants.
D'accord. Et alors vous avez 3 spectacles.
You have 3 shows.
Yeah. C'est amusant parce que sur ces deux artistes, il y a donc un solo de Great Dave. Il y a le solo Shirtless and Flower et le duo Kiki et Pascal.
Kiki et Pascal. Alors faut le savoir, Kiki et Pascal, c'est moi et ma sœur. Enfin, tout le monde s'en fout. Mais ça, quand j'ai vu ça dans la programmation, que... Kiki et Pascal, mais c'est quoi ce bordel? Ma sœur s'appelle Kiki et moi je m'appelle Pascal, ok?
We met a little girl the other night who said her parents are called Kiki and Pascal. Yeah. As well.
Oui. Exactement.
Popular name en français.
French name, yeah.
Tout à fait, popular name, donc des noms populaires en français, la preuve, puisqu'on en rencontre plein. Mais pourquoi Kiki et Pascal, ça sonne français, ça? Why Kiki and Pascal, it is French?
Je ne sais pas. It
was a complete accident.
C'est un accident.
Yeah. We just... We thought of these names and thought, no, it sounds good together. Kiki and
you
Pascal.
Got the idea?
I don't know.
No.
We came up with the idea, I think.
Ensemble, ils ont eu l'idée en tête et voilà, c'est
what she said. It's perfect.
Qu'est-ce qui est le point commun de vos 3 spectacles finalement? Est-ce qu'il y a un humour spécial? Est-ce qu'il y a un concept spécifique à la compagnie que vous représentez?
What's the common point between your both of your solo things and the thing you do together? Is there something?
Humour.
Yeah, comedy. Comedy where the public they can laugh at us as well as with us.
Yeah.
We are not afraid to be very stupid and for people to laugh at us.
The English sense of humor, the idea of self-depreciation, you know, to make fun of yourself and everyone else.
Donc la chose que toutes les productions ont en commun, c'est la comédie et leur sens de l'humour bien anglais. Ils n'ont pas peur de faire rigoler le public parce que par un genre de self de dérivation d'eux-mêmes.
D'accord, alors ils n'ont pas peur de se rendre un petit peu, enfin de se moquer d'eux-mêmes tout simplement.
Non, ils n'ont pas peur que les gens rient de eux.
D'accord, c'est ça, c'est ça l'humour anglais, self-humour, English humour.
Is that typically British?
Yeah, I think so, yes, I think so.
Some people tell me that, des gens m'ont dit hein, dans la rue que vous ressemblez à Monty Python.
Everybody always says this. Yeah. I look similar to Eric Idle, and people always go, "Ah, Eric Idle," which is better than "Ah, oh, Mr. Bean."
Il ressemble physiquement à Eric Idle, donc un des comédiens du Monty Python, et il pense que c'est mieux qu'il dise ça que "Ah, voilà, Monsieur Bean."
Mr. Bean, Monsieur Bean.
C'est vrai que vous parliez du point commun de spectacle, et vous avez dit aussi human. Vraiment, c'est le rapport aux autres.
Je crois qu'ils ont mis humour plutôt. C'est pas humour.
Humour. Ah, c'est humour. Oui, vous avez dit humour.
Je pense.
Ouais.
Humour.
Oui.
Ah oui, d'accord. Mais en fait, du coup, moi, j'ai entendu humain dans l'humanité, dans la relation à l'humain. Alors c'est marrant, c'est moi du coup qui fais directement ma propre lecture, parce que pour avoir vu le spectacle Charlotte and Flower, c'est vrai qu'il y a un vrai rapport avec les gens, les mettre en scène, il y a quelque chose de action-réaction, il y a un peu une prise de risque quand même sur le rapport aux autres.
When he saw your show, there was a very human dimension to it. Mm. And there's a good link with the public, with the spectators.
Yeah, it's the most important thing for me is the play between me and the people.
La chose la plus importante pour elle, c'est le fait qu'il y a ce lien entre le public et eux.
Alors, moi j'ai envie qu'on écoute justement un bout de réaction du public. Tiens, un petit micro-trottoir.
Bonjour, je suis Jean-Claude Lesbrouf, patron de la boîte de prod Cheap Jingle.
Tu as vu The Great Days?
Ouais, alors une espèce d'anglais, une quarantaine d'années, 1m80-90. Au début, il part sur des jonglages tout con avec deux quilles, machin, il est fait tomber, il rejoue avec. Il fait une connerie, il rebondit dessus pour faire marrer tout le monde, quoi. Pareil, les gamins au premier rang, les gens derrière, les ados, les gens de mes âges, une trentaine, ont été mais tordus de rire. Jonglage en costume d'abord. Dès que ça devient compliqué, il enlève le truc, il se retrouve en une espèce de tenue d'athlérophile avec son pantalon, sa tenue de scène, quoi. Il vire le truc, il se retrouve en fuseau. C'est débile, c'est vraiment génial.
Ouais, Monty Python,
ouais, il y a un gros esprit Monty Python dans les... Monty Python, c'est autre chose. Monty Python, ouais, déjà la tête du mec, l'esprit, le même genre un peu d'humour. Ouais, Thierry
Moore, anglais, quoi.
Burlesque, so British.
Ah, quelqu'un du public qui a apprécié énormément. J'ai dit, mais c'est terrible, terrible, terrible. Voilà, The Great Dave.
Bonjour.
Bonjour.
Sorry, hello.
Hello. Voilà, une réaction de quelqu'un. Tu as compris un petit peu ce qu'il disait?
Un petit peu, oui.
Ouais. Donc un grand mec, la quarantaine, c'est vrai?
A tall man, about 40 years old, is that true?
Yes, a little younger, maybe.
Un peu plus jeune, aussi.
Just.
That's not
just.
Funny. That's not funny. No funny. It is my birthday, in one week's time, I will be
38. Il va avoir 38 ans la semaine prochaine.
Voilà, donc il n'avait pas bien vu.
Honestly.
Peut-être que tu peux nous parler un peu plus de ton spectacle, justement, de Great Dave?
Oui.
Can you talk about you?
Of course. It's, again, it's this what we said before. It's about looking at me and just being silly, being stupid, and the audience enjoying me being silly and stupid. I also, from a very young age, I learned these circus skills, juggling, unicycle, and the trick with the cups and the saucers. And I like to mix this in as well.
So. Donc, en gros, The Great Dave, c'est lui qui fait un peu un débile. Il fait des choses idiotes pour faire rire le public de ça et de les faire regarder. Depuis un très jeune âge, il a aussi appris les arts du cirque, donc le jonglage, l'unicycle, et il aime bien mélanger les deux.
Ok, on va parler un petit peu avec Tamara, du coup, de son spectacle. On va faire la même chose, parce que moi, j'ai vu une photo dans le télégramme que je tiens là dans mes mains. Je sais que c'est pas très radiophonique, mais on voit le travail de Puzzle Théâtre, mais aussi le travail de Tamara, donc de Kiki et Pascal. Je sais plus comment elle s'appelle, la compagnie de...
Shirley Sunflower.
Shirley, voilà. Qu'on voit à cheval sur un quelqu'un du public, dans une position, on va dire, un petit peu, comment dire...
Elle est sur les épaules, mais à l'envers.
Elle est sur les épaules de quelqu'un en public. Alors, tu le fais à chaque fois? Did you do that anytime?
Yes. Unfortunately,
and what
yes.
is the reaction? Quelle est la réaction du public? What is the reaction of the public?
They always laugh. Sometimes a little... surprised.
Donc le public, quand elle fait ça, ils rigolent toujours, mais ils ont l'air un peu surpris quand même.
Quand même. Et qu'est-ce que pense Dave de ça?
It's funny.
There is no problem.
As long as it's funny, it's no problem. If it's not funny anymore, then I have a problem.
It's a big layer of material.
si c'est plus drôle, ben là, ça deviendrait sérieux. Mais pour le moment, ça fait partie de son matériel artistique.
Ok. Je crois que la force de ces deux artistes, c'est dans l'expression « le ridicule ne tue pas ». Et quand le ridicule est assumé et on joue avec ce ridicule et qu'on embarque le public en même temps là-dedans, je crois que c'est un art, l'art du ridicule. Et ils ne sont pas du tout ridicules parce que justement, ils jouent de ça. Mm.
Mais c'est un exercice difficile quand même, le problème.
Yes.
It's a difficult exercise to be ridiculous and to assume it. Yeah.
Il y a une autre picture.
Il y a une autre picture de ridicule. Ah oui, c'est vrai que. Ouais. Ah oui, là, je décris. Hein. Pascal, hypnotiseur hypnotisé par Kiki dans Abracastabia. Nous voyons Pascal donc en photo hein, dans le télégramme d'aujourd'hui. On peut dire qu'il est en slip et en costume en même temps. Et il fait, voilà, on se demande bien ce qu'il fait. C'est vrai que c'est assez ridicule. En tout cas, ben, merci d'être venu dans cette émission. On vous retrouve, Kiki et Pascal, alors, et Shirley et Dave, The Great Dave, dans plusieurs spectacles. Je ne sais pas comment vous faites. Vous dormez des fois, vous faites la sieste
As you have to do a lot of
things. No, not when you have children.
No. On peut pas faire la sieste quand on a des enfants.
Voilà.
And
the youngest child is 3.5 months, so I'm still awake in the night to feed. And
la plus jeune a que 3 mois, donc elle doit se lever la nuit pour le nourrir.
Actually.
Yeah.
Actually, alors il y a 3 spectacles pour la compagnie, plus la gamine de 3 mois.
We're crazy.
Le bébé.
You're crazy.
Yeah.
Trois spectacles, 2 enfants et 1 voiture.
Voilà.
And 2 tired people.
Et 2 tired people et 2 personnes fatiguées. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler de tout ça. On va se faire une petite pause musicale et juste après, on va continuer la suite de cette émission, ma foi, qui est... Ah tiens, je le vois, je vois qu'il arrive. Le Pierre Prévost qui va nous parler de plein de choses juste après ce morceau de Gotham Project qui sont présents au Festival du Bout du Monde, puisqu'on va y être tout à l'heure aux environs de 17h. Quand on projette, et juste après, on reprend le direct.
We'll be right back. heart attack. Woo. Meanwhile, they're back in town. Them people were grooving, digging that sound. So we pushed it harder, they had to know. And it made us all so damn aggro. Here's that thing I'm talking about.
Voilà, c'était Agro Lights sur l'antenne de Canal B, sur l'antenne de Fréquence Mutine aussi. Je vous rappelle qu'on est en direct donc d'une petite école, en fait, dans la salle informatique où on a installé notre studio. Et il se trouve que si je vous ai passé ces deux morceaux à suivre, Agro Lights à l'instant et Gotham Project, qui passe d'ailleurs au Festival du Bout du Monde, eh bien, c'est parce qu'il fallait un tout petit peu de temps pour que nos amis de Gypsy Burek Orchestra s'installent et je pense qu'ils sont prêts. Ils vont peut-être nous donner un petit extrait. Vous nous faites un morceau, un bon gros morceau bien long, hein, bien comme il faut. Oui, ils ont l'air d'accord. Ils ont l'air d'accord. Messieurs, c'est quand vous
avec
voulez.
Le
c'est, avec le bakshish. C'est quand vous voulez.
Ah, bon. We'll be right back.
Orchestre qui ont bien voulu nous faire l'amabilité de jouer en direct ici au studio de Canal B Phare, Fréquence Mutine, etc. etc. Alors on va pouvoir peut-être éventuellement avoir une petite conversation alors que Pierre Prévost s'est installé aussi au micro de Canal B. Pierre Prévost qui est le nouveau président de la Fédération Nationale des Arts de la Rue, et il s'en est pris plein les oreilles avant qu'on a... il s'est installé pile poil derrière la trompette. Je te dis pas comment la tête qu'il a fait. Dragan va s'installer avec nous, peut-être Fanch aussi va venir nous parler un petit peu au micro de Canal B Fréquence Mutine. Voilà, merci. Bonjour Fange, bonjour Dragan.
Bonjour.
Bien dans les micros, rapprochez-vous les garçons. Oui, parce que vos voix font un tout petit peu moins de bruit que vos instruments. Il se trouve que ça y envoie sévère. Voilà.
Okay. D'accord.
Alors,
ça gaze ou quoi?
Ça gaze.
Dragan qui nous vient directement de Kotchani. Fange, toi tu es de Brest, je crois que tu travaillais avec l'Electric Bazar Company.
Non.
Non, c'est pas toi.
Non, mais c'est des amis, on joue souvent ensemble en fait. Je viens de Brest, toi. Ouais.
Tu es brestois donc?
Brest-même. Ouais, mais j'habite à Kotchani en fait.
T'habites à Kotchani?
Oui.
En ce moment donc tu parles le macédonien?
Da.
Et comment ça s'est fait cette rencontre avec les musiciens?
Par hasard, dans un bar en fait.
Ouais.
Ne rekao kako, kako ti znaš mene?
Prvi put smo se ja i ti upoznali u Kočani, to je pred 2 godina.
Deux ans, j'étais passé à Kočani.
I postali smo prijatelj.
Et après on a été très vite amis.
D'accord.
Et tako da posle prijateljstva počeli smo da sviramo zajedno.
Et après on a joué ensemble.
I tako da sad tamo si još svirao s nas, sa nama u moj orkestar na koncerte.
Je joue avec leur orchestre aussi.
Ouais.
Voilà.
Alors, est-ce qu'il y a un rapport entre le Kotchani Orchestra et le Gypsy Burek Orchestra?
Non.
Parce que le Kotchani Orchestra, qui est connu ici en France grâce au label Crammed Disc de Bruxelles.
Ouais. Il y a 2 Kotchani Orchestra, voire il y en a une dizaine à Kotchani, de Kotchani Orchestra. Donc,
comment on les reconnaît? On ne sait pas.
Ouais. Mais tout le monde joue ensemble dans les mariages, en fait, entre les Kotchani Orchestra. Ils se connaissent tous, en fait. Tout le monde joue avec tout le monde.
Alors, est-ce qu'il y a des relations musicales entre la Roumanie et la Macédoine? C'est juste au-dessus, c'est ça? Parce qu'on connaît aussi essentiellement la musique roumaine ici en France. Et c'est vrai qu'on découvre depuis maintenant quelques années, grâce au Kotchani Orchestra, la musique macédonienne.
Ouais. C'est, non, pas avec la Roumanie, non. Pas beaucoup. C'est surtout la Bulgarie,
ouais.
La Turquie et la musique des Balkans.
Alors Kotchani, c'est une ville, c'est une capitale, c'est une grande...
C'est une ville qui fait 33 000 habitants. C'est une petite ville dont 8 000 tziganes, en fait. Et parmi ces 8 000, il y a beaucoup, beaucoup de familles musiciennes. En fait, énormément.
Mais 8 000 sur 30 000, ça fait beaucoup.
Oui, ouais, ça fait beaucoup.
Comment ça se passe, la relation entre, finalement, les Macédoniens, entre guillemets, et les tziganes, qui doivent être Macédoniens aussi, quelque part?
Kotchani, ça va. Ça va, parce que, ouais, c'est une petite ville, en fait, ça va. Skopje, c'est un peu plus tendu. Ouais. Entre les communautés. Mais tout va bien à Kotchani.
D'accord. On parlera pas des endroits où ça va pas bien, alors. On n'est pas là pour ça. Comment tu as réussi à les faire venir ici en connaissant les gens du fourneau? Tu leur as dit j'ai une super formation, c'est toi qui l'as fait? Comment ça s'est passé?
Ouais, j'ai eu des relations avec intime en fait avec l'establishment.
Ah bon? Non, non, avec Michel Bosseur, c'est ça?
Non, en fait, on est produit, c'est grâce à l'impulsion d'une association qui s'appelle Urondo Acoustica, qui a produit, qui a financé ce projet, donc qui a fait toutes les démarches pour les visas de travail. Voilà. Et ensuite, on a été en résidence au Fourneau, en fait, en effet.
Quelles sont les caractéristiques de cette musique? Est-ce que ça a été difficile pour toi de t'adapter? Ou tu la connaissais un petit peu déjà, la musique macédonienne? Comment ça s'est passé? Parce que tu n'es pas tout seul, hein, y a aussi, si je regarde les noms, il y a Volant, il y a Fanche, il y a Manu qui sont d'origine française, on va dire, et puis il y a Dragan, Elvis, ou Dragan, je ne sais pas comment on dit, Serran, qui sont d'origine.
Et Aki.
Et Aki aussi, d'origine macédonienne.
Oui.
Est-ce que je sais plus la question que je posais.
La question.
Même moi aussi, en fait.
Ouais. tu décrivais simplement. Mais...
Musicalement, en fait, ouais, comment. Comment t'es tombé là-dedans, toi?
C'est peut-être un hasard ou voilà, mais je suis tombé assez vite amoureux de la musique, spécialement la musique macédonienne, qui est quand même pas mal de virtuosité, mais une petite touche ottomane.
Ottomane, donc ouais. Turc.
Voilà.
Et, ouais. Et ça a l'air d'être une musique pleine de breaks, ça s'arrête tout le temps, ça repart, ça accélère.
C'est une musique très vivante, qui en effet qui est très, très composée, très, très arrangée en fait.
Beaucoup d'arrangements, donc difficile finalement.
Faut s'entraîner.
Faut bosser.
Ouais, voilà.
Parce qu'il y a quand même une caractéristique, j'ai l'impression, du Gypsy Burek Orchestra. Je ne sais pas si c'est le cas de toutes les formations zigano-macédoniennes, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est quand même des gens qui n'arrivent pas à s'arrêter de jouer, quoi.
Oui, tout à fait.
C'est peut-être pour ça qu'ils deviennent bons, d'ailleurs.
Oui, 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 on joue tout le temps. Alors, il y a deux conditions principales, fondamentales, c'est les femmes.
D'accord, il faut qu'il y ait des femmes.
Voilà.
Et un petit peu d'alcool.
Et oui, et de l'argent.
D'argent.
Et on peut jouer...
Tout le temps.
Oui.
Pourtant...
C'est une plaisanterie, mais qui est un petit peu sérieuse, en fait.
Parce que vous avez joué, par exemple, pas hier soir, mais avant-hier soir, vous êtes arrivé avec vos instruments, vous n'avez pas arrêté de jouer, mais jusqu'à 3h du matin,
oui.
Et personne, pourtant, vous nous donnait d'argent, et les femmes
n'enlevaient
pas leur... Oui.
Oui.
Vous êtes content. D'accord. Gypsy Burek Orchestra, il va y avoir un album, il va y avoir quelque chose, on va pouvoir trouver une production, il y a un site internet, comment on fait pour
on
choper
on est sur
votre
MySpace, et ouais, on essaiera un jour de produire un petit disque, voilà.
D'accord, parce que là vous dites que vous étiez en résidence à... d'habitude quand on a un groupe de musique, on va en studio pour enregistrer.
Ouais, là on répétait en fait simplement.
D'accord.
Faut qu'on trouve l'argent pour la production d'un disque. Et
Alors que la bouteille de cognac passe de main en main, je dis pas des chétis, c'est bien du cognac.
De bouche à bouche.
De bouche à bouche.
Ouais, là c'est la première rencontre cette année en fait. Donc on va mieux se structurer. L'année prochaine, on va vraiment aborder les choses sérieuses.
D'accord.
On va un petit peu produire peut-être un petit enregistrement live. Voilà.
Toi, tu habites à Kochani.
Oui.
Et qu'est-ce que tu fais là-bas de la musique? Seulement de la musique?
Oui. Ouais.
D'accord. Et tu arrives à vivre de ça?
Là-bas, non, pas tellement. C'est pas... Voilà. Bon, on fait pas mal de concerts en Croatie, qui sont des concerts avec beaucoup plus d'argent.
Ah ouais.
Donc, ouais.
Tu veux dire que la Macédoine est moins riche que la Croatie?
La Macédoine n'est pas très riche. Ouais. Ouais. Ouais.
Alors que la Croatie, il y a pas mal d'Autrichiens, d'Italiens.
Sur la bordure de mer, la Croatie est très riche. Ouais. Ouais.
D'accord.
Ouais, si je peux me permettre de dire un truc,
Pierre.
C'est super intéressant qu'il y ait des jeunes musiciens qui découvrent la musique, qu'ils découvrent d'ailleurs maintenant, qu'ils sont vraiment installés dedans. C'est une musique savante, hein, les musiques de. Des Balkans. Et en fait, il se trouve que. Beaucoup de musiciens français, par exemple, ont été éduqués avec du jazz. On fait un tour sur le jazz, mais avec des aînés qui étaient tellement velus que c'était difficile de trouver sa place. Et il y a toute une génération de jeunes musiciens qui ont à peu près une trentaine d'années qui a commencé à découvrir et la musique klezmer, la musique des Balkans, qui est finalement la correspondance européenne du jazz. C'est-à-dire que la vraie pulsion des musiques improvisées, en même temps savantes, des musiques festives, et en même temps... Y a un vrai truc qui s'est passé. Et il y a plein de groupes, parce qu'il y a ce que vous faites, vous, mais il y a des groupes comme Balka à Angers. Il y a pas mal de groupes qui se sont lancés là-dedans, parce que cette musique a un vrai cœur, qui a un partage en plus avec une vision du monde qui est très particulière, qui vient de la communauté tzigane, qui a une espèce de générosité. Moi, j'étais à Mostar, Par exemple, il y avait un groupe, j'étais là, Mostar, c'est quand même un pays qui a été un peu dévasté par des luttes bosniaques et croates. Non, c'était principalement les deux communautés. Donc c'est un pays qui est quand même... Qui s'est repris, mais tu sens qu'il y a des blessures. Et en même temps, il y a un groupe, à un moment, de musiciens gitans qui sont arrivés, enfin, Ziganes, Roms, on va dire, parce que c'est l'appellation. Ah. Roms qui sont arrivés comme ils le font, c'est-à-dire je joue, je fais la manche, tu me donnes des sous, je continue à jouer, tu me donnes pas des sous, j'arrête. Enfin, c'est comme ça que ça s'est fait. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'était hors de la saison touristique et qu'il y avait des habitants de Mostar, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur appartenance, ont reconnu une mémoire et que ça a été extraordinaire. À un moment donné, ils étaient là, ils rajoutaient les billets parce qu'ils se mettaient tous à chanter cette chanson et que cette communauté rome, elle correspond aussi à leur mémoire.
Absolument, il y a un facteur qui est fondamental aussi, qui est assez présent dans toutes les fédérations de l'ex-Yougoslavie, c'est une certaine nostalgie de la Yougoslavie. Ouais. Donc c'est pour ça qu'en effet, la musique rome fédère à ce point-là l'ex-Yougoslavie.
Alors, quelle impression ça fait ? J'ai envie de poser une question à Dragan, le trompettiste hein, du Gypsy Burek Orchestra. Quelle impression ça fait que des musiciens bretons, notamment, alors étrangers, donc bretons, viennent jouer votre musique ?
Je t'ai mis l'idée d'un breton qui joue la musique. Bonjour, c'est bien.
Za nas je dobro, ok, super, interesantno. Interesant je da bitarski čovjek sviri naše
muziku. C'est super, c'est super que
des musiciens, est-ce qu'ils en sont fiers,
des musiciens d'ici viennent jouer leur musique, quoi. C'est vraiment, c'est un honneur, c'est une impulsion culturelle aussi.
Mm. Est-ce qu'ils sont bons, les musiciens français?
Dali a dobro svirem.
Oui.
Voilà.
Il n'allait pas répondre autre chose. C'est clair. Il n'allait pas dire c'est des charrues, il faut les traîner, c'est horrible. Est-ce que le Gypsy. Enfin, je sais pas, est-ce que les musiciens, j'imagine. À chaque fois, j'imagine le contraire. J'imagine des musiciens, par exemple, macédoniens, qui viennent apprendre la musique brésou ici en Bretagne. Ce serait vachement intéressant. Tu penses qu'il y aura des croisements comme ça qui se feront un jour?
Oui. Il y a des croisements qui se font déjà sous. La grande impulsion d'Éric Marchand.
Ah tiens donc, je savais bien qu'on allait arriver chez Inaccord.
Bien sûr, parce que naturellement.
Mm. Et de toute façon, et c'est pas pour rien que ça se passe en Bretagne, qui est quand même une terre où les mélanges, les métissages musicaux sont faits. Moi, j'ai assisté à des concerts maghrébo-celtes absolument formidables sur, vois, des.
C'est une région qui se prête bien, de toute façon, qui à mon avis, qui est assez riche au niveau culturel, qui a beaucoup d'impulsions. Au niveau traditionnel, et donc au niveau créative.
D'accord.
À mon avis, ça joue beaucoup dans le fait qu'on arrive à faire des brassages comme ça.
D'accord.
Ouais, je suis d'accord. Hein. Je trouve la culture bretonne à cet avantage d'être en même temps ancrée dans un espace et une histoire, et en même temps hyper ouverte. Ce qui n'est pas le cas de toutes les cultures régionales. Oui, celle-ci a vraiment cette particularité.
Celle-ci est très ouverte.
D'être particulièrement ouverte.
Ouais.
Qu'est-ce que vous racontez à vos voisins quand vous revenez de tourner à Kotchani, les musiciens macédoniens?
Je t'ai que j'aime ça, toi, plus à
terre. Quand ils reviennent de Bretagne.
Quand tu dois aller en Bretagne ou Kotchani, je t'ai mis les ch'tas que j'aime.
Je t'ai que j'aime que nous avons été bien, que nous avons public a bien pris, que tout est ok, nous sommes heureux que nous avons joué avec un britannique homme.
Ça veut dire allez. Ça se passe super bien. Là.
Mmh. Ils sont contents?
Vous
vraiment. Tournez en Bretagne?
Ouais, super. Ouais. Il a dit, on est vraiment contents. Tout se passe bien musicalement, c'est super. On a plein d'amis ici.
D'accord. Merci en tout cas Gypsy Burek Orchestra, on va enchaîner avec d'autres personnes. Je sais qu'ils nous ont prêté un CD, j'ai pu ripper donc sur l'ordinateur un petit morceau, alors il n'est pas nommé, peut-être qu'ils vont nous dire de quoi il s'agit. On enchaîne avec ça et puis juste après on va parler avec monsieur Pierre Prévost de la Fédération Nationale des Arts de la Rue. Merci, au revoir, merci. Bonne chance.
Dovidjenia,
ciao. Oh.
Ça se termine comme ça, pouf d'un coup, c'est comme ça. C'est la musique de Kochani, à l'instant sur Canal B Fréquence Mutine, dernière ligne droite pour eh bien, cette couverture du Festival des Arts de Morlaix. Je vous le rappelle, nous sommes donc à Morlaix, dans un pays, ma foi, où eh bien, pendant une semaine, quelques jours, mercredi, jeudi, vendredi, eh bien, la ville comment dire, explose de mille et un spectacles fantastiques, des couleurs chamoirées, des mots qui veulent dire des choses, beaucoup d'amour, beaucoup de bisous et un public venu nombreux pour un festival et dans une ville qui eh ben, est une ville en perte de vitesse en termes de nombre d'habitants. Il faut le savoir, Morlaix est passé de je ne sais plus combien de milliers d'habitants, enfin a perdu je crois c'est 8000 habitants, un truc comme ça, dans ces 5 dernières années pour une ville d'environ 30 000, ça fait beaucoup. Et pendant quelques jours à Morlaix en ce début août, eh bien, c'est la fête, tout le monde est content.
Vous avez quelques jours pour vous reproduire, allez-y.
Voilà.
C'est finalement un festival des arts de la rue, il n'y a rien de tel. c'est très propice. On peut faire des rencontres. Et à mon avis, allez-y, hein, on va faire remonter la population de Morlaix. Tu vois.
Voilà, allez dans les festivals de théâtre de rue, il y a de la caille. C'est ça que tu veux dire. Pierre Prévost est avec nous, donc. Il est président, le nouveau président de la Fédération nationale des arts de la rue, une fédération qui s'est montée il n'y a finalement pas si longtemps que ça.
13 ans.
13 ans, 13 ans pour essayer de faire avancer les choses auprès des institutions, si j'ai bien compris.
Oui, au départ, c'était... Oui, c'était, il y a eu une demande de rendez-vous d'un certain nombre de gens des arts de la rue à la deuxième guerre du Golfe, parce qu'il y avait des dispositions qui étaient prises sécuritaires qui empêchaient absolument de faire son métier. Et du coup, un certain nombre de nos grands anciens sont réunis et sont allés en délégation trouver le gouvernement pour leur dire « mais qu'est-ce qu'on fait là ?» Et ensuite, effectivement, il y a eu ça s'est concrétisé par cette association, en fait, qui s'est appelée la Fédération, donc avec l'idée de regrouper un certain nombre de gens. Il n'y avait pas grand monde au départ. Et puis, un certain nombre d'années, nous sommes arrivés l'an dernier à 400 adhérents, ce qui est quand même assez énorme, pour sachant qu'il y a à peu près 1700 compagnies revendiquaires de la rue en France.
1007 ?
Ouais, 1007.
D'accord.
Et voilà, ça correspond à un effort, une avancée. Nous n'avons pas inventé les arts de la rue, nous, en France, hein, pas du tout. C'est quelque chose qui est né d'un certain nombre de choses. Notamment, il y a eu l'arrivée du bread and puppet, du Teatro Campesino, enfin des choses américaines qui sont nues dans les années 60 et même un peu plus tôt en France, qui ont donné des idées. Mais c'est vrai que la France a été particulière parce qu'elle a été une couveuse intéressante et qu'elle a... parce qu'il y avait des passeurs, parce qu'il y avait des programmateurs qui se mobilisaient dessus, parce qu'il y avait des artistes qui avaient envie de rentrer dedans, et parce qu'il y avait aussi un cirque qui, à l'époque, était un peu au bout du rouleau dans sa fonction traditionnelle, mais qui demandait qu'à renaître. Il y a eu cette conjonction de soins, de rapports, et l'État n'y est pas pour rien tout à fait, qui a fait que les arts de la rue se sont épanouis en France beaucoup plus que dans d'autres pays. Il y a peut-être aussi le statut de l'intermittence qui a aidé, il y a peut-être d'autres choses. Néanmoins, on constate ça, on ne l'a pas inventé, mais c'est vrai que c'est le pays au monde, pour l'instant, où les arts de la rue sont plus à l'aise et plus développés. Touchons du bois, parce que ça ne va peut-être pas forcément durer avec les politiques qui sont amorcées actuellement. Mais pour l'instant, on peut être fier de ça, et c'est vrai que... Pardon. C'est vrai que nous tournons dans le monde entier, il y a des compagnies...
Prenons la tienne, par exemple.
Non, pas du tout la mienne, parce que nous, on fait en français, et on a beaucoup de mal, et c'est vrai qu'on souhaiterait beaucoup passer au-delà des frontières, mais mis à part dans les pays francophones, c'est un peu difficile. Par contre, on souhaiterait bien ça, donc on va essayer de se mobiliser là-dessus, parce qu'il y a des possibilités d'adapter, de traduire, de rencontrer. Si on met tout à faire des spectacles formatés, c'est-à-dire soit muets, soit chorégraphiés purement, ou soit en anglais purement, on perd quelque chose, parce qu'on perd aussi la variété linguistique de l'Europe. Notre richesse linguistique, qui est un... Moi, j'étais content d'entendre notre camarade la parler macédonien, qui est très proche du serbe. C'est une langue que j'ai essayé d'apprendre avec la méthode Assimile. Ce sont des langues fabuleuses qui ont des mémoires dans lesquelles on retrouve des mots latins, des mots turcs, des mots russes. C'est vraiment... les langues sont notre richesse, tout comme la musique. Et j'étais très content, en fait, pour te dire... après, on va peut-être passer à autre chose, à une question, mais
oui.
J'étais très content de me retrouver avec ces musiciens parce que, dans les arts de la rue, le secteur musical est quelque chose d'important. Il y a une vraie histoire, ils étaient là depuis le début, et il y a une vraie évolution, c'est-à-dire qu'au départ, on avait cet héritage des fanfares des Beaux-Arts dans les années 70... qui faisaient de la musique dans la rue, dans l'espace public. Et au fur et à mesure, on voit bien que grandissent. Il y a des groupes maintenant qui sont historiques et il y en a qui vont de plus en plus vers la théâtralisation. Il y a un vrai effort artistique qui se fait, tant au niveau de la qualité musicale que de la présentation. Notamment, par exemple, des compagnies comme le Snob, comme les Groom. Mais il y en a plein. Et puis, il y a aussi cette pulsion des musiques tziganes, qui est une musique vraiment festive, sans fla-fla, sans après, et qui donne vraiment, vraiment une ambiance festive là-dedans. Enfin, bref, moi, je milite pour que les musiciens soient de plus en plus présents dans la Fédération des Arts de la Rue, parce qu'ils apportent quelque chose d'absolument important.
Oui, alors c'est intéressant ce que tu racontes, parce qu'en fait, c'est vrai que quand on est un... C'était pour faire l'enchaînement, c'est son effet de voix. Quand on est musicien ou quand on a des velléités artistiques, qu'on fait, voilà, qu'on a envie de faire quelque chose, eh bien, il se trouve que on commence en général par apprendre la guitare, à faire un petit peu de rock'n'roll et se retrouver sur des scènes et se rendre compte que bon sang de bonsoir, si jamais on veut gagner un petit peu sa vie avec ça, c'est même pas la peine. Alors que si on se lance dans le théâtre de rue, j'ai l'impression qu'en fait, en France, actuellement, finalement, le monde des musiques actuelles est carrément complètement bouché. Beaucoup de monde, et des salles difficiles d'accès, assez difficile de jouer et d'avoir de gagner sa vie, tout simplement. Alors qu'à un même niveau, j'ai envie de dire, de qualité, si on prend une petite compagnie de rue et qu'on la compare à un groupe de rock, de ska, de je ne sais pas quoi, et ben finalement, elle va mieux s'en sortir financièrement. J'ai des exemples un petit peu partout autour de moi de gens qui y arrivent assez correctement, grâce au système de l'intermittence notamment, mais aussi parce qu'il y a peut-être plus de débouchés dans le théâtre de rue finalement que dans la musique, que dans les musiques actuelles.
C'est pas vraiment gagné.
Non.
Non, jusqu'à il y a très peu de temps, les musiciens étaient les mieux, étaient les moins bien payés. Parce que fanfare, ça se vendait au kilo, il y avait une espèce de tradition comme ça. Heureusement qu'il y a des compagnies qui prennent vraiment un aspect théâtral, si tu veux, important. Mais il faut savoir qu'aussi du côté des musiques actuelles, nous ne sommes pas seulement. Nous sommes à l'intérieur, enfin la Fédération des Arts de la Rue, nous sommes à l'intérieur d'un réseau qui s'appelle UFISC et qui côtoie avec d'autres réseaux, justement. Réseau des musiques actuelles, réseau fait du rock. Voilà. Donc on est très proche et on se bat, si tu veux, sur une. On se bat là réellement, pas sur le fait d'être dans la rue, mais sur des politiques qui soient qui diffusent une culture de proximité. Donc les enjeux dans les salles, dans les petites salles, des musiques actuelles et des musiques dans l'espace public sont les mêmes.
C'est les mêmes.
Si tu veux, ils se regroupent à l'intérieur. Simplement, il y a un passage. On sait que les compagnies qui s'en tirent le plus, enfin les groupes musicaux qui s'en tirent le mieux sont ceux qui théâtralisent le mieux, c'est-à-dire qui ont fait ce pas-là. Certains se spécialisent vraiment, comme Musique à Brasse, par exemple, qui était un des groupes les plus connus, qui accompagne les arts de la rue depuis 20-30 ans. Se spécialisent dans aussi une musique plus ouverte. On a des groupes. Par exemple, un groupe comme les Branques, qui vient de Lorraine, c'est un groupe assez extraordinaire parce qu'il fait du free jazz. Et il fait du free jazz, autant moins le free jazz dans une salle, ça me glace, je m'emmerde comme un pou. Eh bien, le free jazz tel qu'ils le font dans la rue, c'est absolument, c'est festif, c'est magnifique, ça te fait vibrer, c'est très très inventif musicalement. Donc il y a vraiment des choses qui se passent.
Mais j'ai l'impression que c'est encore difficile de croiser encore le. J'ai l'impression que ça reste des chapelles, les musiques actuelles, les groupes de rock, un petit peu pop, un petit peu pointu, folk, je sais pas quoi. Je veux dire, ne s'occupent pas du tout des arts de la rue et s'en foutent, ils ne les connaissent même pas, quoi. Ils vont même pas voir les compagnies en festival. J'en connais sur Rennes.
Les groupes, mais les musiciens quand même.
Ouais.
Je veux dire, tout musicien est quand même ouvert dans sa tête, il est éclectique. Ouais, il faut un musicien de rock capable de faire un petit tour. Bon, il y en a quelques-uns qui sont
fermés,
mais si t'es vraiment musicien, t'es curieux. Enfin, ouais. Voilà. C'est comme je dirais, si t'es vraiment comédien, t'es curieux aussi, tu restes pas à faire ton clown, t'as envie d'aller faire un petit tour du côté de chez Molière, chez Shakespeare, ou d'aborder des textes contemporains, ou te lancer dans des impros, ou d'aller du côté du clown, puisque ce qui nous permettra de faire une transition avec nos camarades,
avec nos camarades des Alamas Givrés, qui sont arrivés. Si bah, ils vont venir s'asseoir, tiens, et donc, Françoise, Judith, je sais plus comment elle a plein de noms...
Marie-Madeleine,
c'est vrai, elle est là aussi. On va revenir sur leur travail à la magie vraie. Une dernière question quand même. Coral, tu parles de musique parce que finalement, on peut le redire, dans ta compagnie, ça fait de la musique, c'est une chorale.
Oui, enfin, c'est un des spectacles de la compagnie, c'est une chorale de comédiens. On est passé par le biais musical, mais honnêtement, c'est pas la grosse spécialité de la compagnie.
Et toi, je parie que tu fais des voix de basse. Quelque chose me dit que tu fais les voix de basse.
Oui, je fais les voix de basse et puis c'est moi qui compose en plus. Si tu veux, l'aspect musical, c'est moi qui l'assume. Et je me suis bien amusé. Hein,
la chorale Saint-Fulbert.
De Saint-Fulbert.
Oui, qui fait dans la kermesse habituellement.
Qui fait dans la délicatesse. Dans la subtilité en général.
Vous avez déjà croisé, notamment sur Rue Libre. Et c'est vrai que c'était c'est très intéressant. Un dernier mot à propos de la Fédé et ton poste de président. Tu viens d'être élu président. Apparemment, il était interdit de faire plus de temps d'années. On n'a pas le droit de cumuler trop les mandats. La présidence de la Fédération.
Non, il n'y a aucune loi là-dessus.
Non.
Ce qui s'est passé, c'est par accord.
C'est pas ce que m'a dit l'ancien président, mais bon,
vas-y. Ouais. Non, mais par accord. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu depuis trois présidences, ils font chacun, les trois derniers présidents ont fait trois ans chacun. De suite, ce qui laisse le temps, si tu veux, d'une part d'apprendre son taf, parce qu'on n'est pas président. Moi, j'apprends beaucoup cette année, là, je suis dans la phase d'apprentissage. Donc d'apprendre, de devenir un petit peu performant, de lancer des choses avec le CA. Et puis après, il faut passer effectivement le relais parce qu'il y a aussi besoin de sang neuf, de vision neuve. Mmh. Et pour l'instant, on a cette espèce de, d'hygiène, mais qui n'a même pas été discutée. Ça se fait à peu près comme ça, naturellement.
D'accord. Est-ce que, comme tout relais de président, vous vous êtes isolé, toi et Thierry Laurent, de la compagnie Hannibal et ses éléphants, vous êtes isolé dans une petite pièce et vous vous êtes donné les secrets de la présidence, genre les clés du coffre ou je sais pas quoi, un truc.
Ben on a eu ça, si tu veux. D'abord, il faut savoir que d'abord avec Thierry, ça fait, moi j'ai travaillé, j'étais son secrétaire, j'étais secrétaire de la fédération pendant trois ans, pendant qu'il était président. Donc on a beaucoup bossé ensemble. Donc on n'avait pas besoin de se dire grand chose, mais cela dit, une fois que j'ai été élu, je lui ai demandé et on a passé deux heures, on a bu des coups, effectivement il m'a laissé les clés de l'arsenal atomique en me disant bah, écoute, ça faut que tu évites ça, fais attention là, je t'aiderai là, ce qui est normal et c'est ce que je ferai quand je passerai la main.
C'est quoi le prochain combat de la Fédé là? C'est... Ah, le truc, la priorité, le truc là-dessus, on va lâcher les chevaux.
Oh là là, il n'y a pas de combat prioritaire, si tu veux. La prochaine échéance, l'échéance importante, c'est que pour l'instant, on n'a pas de coordination professionnelle. On n'a pas de gens qui sont payés pour faire marcher la Fédé, contrairement à ces 10 dernières années. Donc, on engage deux personnes. Donc ça, c'est très important. Le reste, c'est qu'effectivement, on est dans une situation difficile par rapport au choix de ce gouvernement. Les RGPP, les réformes territoriales, ça fout bien son Bronx. Mais il va falloir qu'on arrive à répondre à ça. Donc il y a aussi un travail avec les autres, en réseau, avec nos copains du fisc et avec le syndicat, la CGT, enfin tout ça, tous les gens, pour essayer de maintenir un semblant de paysage culturel qui se tienne. Et troisièmement, on a toujours cette lutte un petit peu qui est sourde et sur laquelle on avance bien quand même, qui est de faire reconnaître les arts de la rue comme faisant partie des arts vivants, à égalité, avec un savoir-faire différent. Avec, nous, en plus, on a une lutte à avoir qualitative. Il faut qu'on avance. On ne peut pas se satisfaire des choses qu'on a faites jusque-là. Il faut qu'on avance qualitativement sur nos propos, sur nos rapports au public, sachant qu'on touche quand même plus de public que les salles, parce que c'est plus facile, tout bêtement. Hein. Mais ça correspond à un différentiel de 10% à peu près. C'est-à-dire que là où les centres culturels touchent 4% d'une population, nous on arrive à 14 à peu près.
Ah ouais. 14.
C'est quand même différent et l'idée c'est quand même de ne pas rester dans notre précaré, donc de nous faire reconnaître mais en même temps de reconnaître les autres et de faire des croisements d'opérations si possible, de multiplier tout ça parce que finalement tout ce qu'on défend c'est la même chose. Après nous avons des terrains de jeu privilégiés mais qui ne nous empêchent pas de jouer ailleurs. Hein. Mes petits camarades des Alamas ils ne jouent pas que dans la rue, dans leur carrière artistique ils jouent aussi ailleurs. Et Patrick, notamment dans les endroits très biscornus.
Ouais.
Et on est fiers de ça. C'est la richesse de notre métier.
Merci, Monsieur le Président. On enchaîne tout de suite avec les Alamas givrés. Je crois que Clémence, normalement, elle devait venir m'aider faire un petit. L'interview. Où est-ce qu'elle est? Elle a disparu. Elle a fui. Bonjour, les garçons. Comment allez-vous?
Bonjour.
Alors, les Alamas givrés, moi, je vous ai vu jouer dans la rue. Vous jouez dans la rue. Donc, c'est quand même. Super pour une compagnie de théâtre de rue de faire ça, mais aussi dans les cours d'usine et dans des endroits un petit peu bizarres. Et vous avez une caractéristique, c'est que vous donnez rendez-vous à un endroit et puis vous bougez. Vous restez pas dans ce même endroit. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous faites ça? Ça sert à quoi? Vous pourriez rester et faire votre spectacle au même endroit du début jusqu'à la fin, non?
Non.
Non.
Ben non.
Ok, pourquoi? Pourquoi non?
Pourquoi? Ce spectacle-là, il est conçu comme ça pour aussi créer la surprise à tout niveau. C'est une formation incognito, donc on cultive le secret jusqu'au bout en déplaçant les gens, en les emmenant là où ils ne s'y attendent pas. Donc voilà, c'est un peu dans la filiation du thème qui est développé.
C'est le concept en fait.
Ouais, c'est le concept. C'est ça que oui, enfin, c'est du concept fait de chair, de jambes. Voilà.
Alors, vous les emmenez dans différents endroits. Ça a quand même un avantage, c'est que du coup, on n'est pas forcément toujours placé au même endroit. Ça, c'est pas mal parce que du coup, le public se retrouve soit devant, assis, soit derrière. Moi, je suis monté sur des poteaux. Enfin, voilà. Donc, du coup, ça veut dire que vous situez à chaque fois les gens. En tant que public, en tout cas, on peut avoir plusieurs angles de vue de votre spectacle.
Il y a des petits malins quand même qui sont toujours au premier rang. Hein, quand même,
ouais,
hein.
Ils y arrivent.
Les gosses, par exemple, ils collent bien au basque.
Ouais.
Ouais, eux, ils sont toujours bien au premier rang. Et ils sont ça par rapport juste pourquoi celui-là, il est en déambulatoire. Parce que oui, ça colle au propos, parce qu'on a fait d'autres spectacles qui étaient en fixe, et parce que bon, un spectacle sur la médecine, bah, on, comme on ne traitait pas des urgentistes ni du SAMU, bah, on l'avait fait en fixe par exemple. Toi, voilà. C'est parce que ça
oui,
colle au propos.
Ça, il faut quand même savoir que les Alamas Givrés, c'est pas n'importe quelle compagnie.
Alors vas-y, présente-la nous.
Les Alamas Givrés, ça correspond à une compagnie phare de la deuxième génération, je dirais, qui sévit depuis plus d'une dizaine d'années avec des spectacles qui 18. Ont renouvelé. Et qui ont vraiment inventé des scénographies particulières, notamment le grand spectacle qui les a fait vraiment découvrir par le grand public, c'était To Be or Not To Be, et qui était un spectacle qui était à 360 degrés intégralement, et avec une inventivité, un rythme, un travail théâtral derrière exceptionnel. C'est vraiment un spectacle qui a très très bien fonctionné, qui a été suivi par Givropolis. Ensuite, ils ont inventé aussi des spectacles déambulatoires à partir
de manège.
Le manège d'aventure. Et c'est vraiment une compagnie qui est... Alors c'est intéressant, parce que Formation Incognito est leur dernier projet en tant qu'Alamas Givrés. À ce jour. Hein,
c'est ce
mais
que j'ai
ils l'ont déclaré, en tout cas, c'est celui, c'est la tournée finale d'Adieu. Ce qui est assez rigolo, puisqu'ils ont commencé tous les deux aussi par un spectacle. Vous étiez que tous les deux. Donc c'est une espèce de boucle qui se boucle. C'est intéressant d'avoir ce genre de choses, parce que c'est vrai qu'on a de temps en temps, comment on a une pertinence dans son histoire, il y a des compagnies qui ne savent pas arrêter et qui feraient bien de temps en temps. Ils ont décidé de terminer. Ce qui est un choix assez rare dans cette profession, de l'annoncer en plus, et ils se retrouvent, je crois, sur un grand plaisir. Ils sont montés par des choses qui étaient plus compliquées, plus lourdes, intéressantes, mais qui étaient plus difficiles pour eux, parce que ça demande simplement
énormément d'énergie,
réactif, etc., de l'énergie. Là, ils se retrouvent sur Formation Incognito, qui est, de leur aveu, un spectacle qui leur donne beaucoup de plaisir.
D'abord, c'est léger.
Ils retrouvent leur complicité.
Ils ont deux valises, une valise chacun.
Bon, eh ben merci Pierre, je vais pouvoir y aller. C'est con parce que depuis 18 ans, je t'aurais pris comme attaché ou diffusé pour nous faire la pub. J'en serais pas là. Et je pense que j'aurais un peu plus de monnaie dans la poche. Bon, ben merci, c'était sympa.
C'est vrai que... Alors pourquoi les Alamas Givrés ? Pourquoi vous arrêtez ? Reviens.
Je pense que ça ne regarde pas forcément tout le monde, nos auditeurs à Morlaix.
D'accord.
Parce que.
Rapproche-le du micro, ça c'est n'importe quoi.
C'est Laurent qui parle.
Oui, c'est Laurent qui parle. Mais bon, voilà. Je vois pas. Tu veux répondre, Patrick ? Vas-y.
Peut-être que Patrick il peut dire pourquoi. Non, mais pourquoi une compagnie arrête alors qu'elle a l'air d'être.
Vous voulez faire autre chose ?
Vous voulez faire quoi alors ?
Moi je vais faire.
Rapproche-toi et assis-toi.
Non.
Mets-toi devant le micro s'il te plaît, Laurent. C'est dingue ça.
Assis-toi. Techniquement, c'est pas assez.
Voilà, c'est pour ça.
De toute façon, bon. Hein. Mais bon. T'as envie de répondre à cette question ? Vas-y, réponds à cette question.
Qu'est-ce que vous allez faire après ?
C'est vrai que je suis un peu surpris parce que je pensais qu'on parlait des Alamas là et pas forcément du devenir là. Bon.
Alors moi,
c'est une question qu'on a envie de se poser parce que.
Oui,
voilà,
mais je comprends.
Mais non, c'est du people, ça, on s'en branle.
Non, c'est pas du people.
La vraie truc, c'est que les gens, ils viennent voir les spectacles. Ouais. Alors, nous, on a fait du spectacle vivant, donc la mémoire, elle est dans la mémoire des gens. Ceux qui ont vu. Il n'y a pas forcément d'image, il n'y a pas machin. Donc voilà, c'est quelque chose qui a été éphémère. Mais 18 ans, c'est pas mal.
C'est pas mal.
Et voilà, on n'a pas signé de contrat, Patrick et moi, quand on a décidé de se dire, bon, alors, on a dit, bon, allez, on fait un truc, ouais, on fait ça, ouais, ça tombe bien, j'ai des thunes, j'ai acheté un camion, on peut partir maintenant, on peut le faire. Bon, on l'a fait. Et puis, à un moment donné, Pat, il a dit, bon, bah, moi, j'ai envie de faire autre chose et tout ça.
D'accord.
Je lui ai dit, bah ouais, bah, on fait vas-y, bah oui.
Quand
oui, il fait autre chose.
Leur retraite.
Oui, c'est ça, ouais.
Et juste, qu'est-ce que je voulais dire pour finir voilà. Et après le reste c'est personnel en fait.
D'accord. Les Alamas Givrés, c'est un spectacle qui met en scène deux personnages. Comment pourrait-on les décrire ? Il y a un professeur et il y a un élève. Il y a un professeur un peu givré et un élève peut-être qu'il y a encore plus. C'est peut-être l'explication du nom, les Alamas Givrés. Et alors on croit, enfin c'est comment dire, l'enseignement du pickpocketage, c'est ça, du pickpocketing.
Est-ce qu'il faut le dire, c'est-à-dire que si jamais on est de l'autre côté du micro, des gens qui sont amenés à le voir, on va dévoiler des choses qu'on ne.
Non, mais on va pas être trop loin justement.
Dévoiler. Maintenant,
ça va, on joue plus que 7 fois à Aurillac. Bon, alors on joue place Saint-Géraud-des-Passes. Okay, alors on joue à Aurillac. J'espère qu'il y a des Morlaisiens qui vont à Aurillac. On joue donc du côté de la place Saint-Géraud, à 12h30, je crois. Voilà, les 4 jours. Et puis on fera un autre truc, place Saint-Géraud aussi, à 17h30. On fera un déambulatoire fixe. C'est autre chose, ça.
Ce qui est étonnant, c'est que la formation Incognito, le nom vient aussi de la manière dont vous l'avez créé, dont vous l'avez présenté la première fois. Puisque vous l'avez présenté en clandestin.
Oui, le baptême de cette histoire-là est un peu singulier, en fait, oui. Parce qu'on est habitué des structures lourdes, des gros temps de montage, etc. Et puis là, on avait décidé de travailler un peu différemment. Et puis aussi pour essayer d'autres choses, quoi. Parce qu'en effet, il y a de la curiosité à aller. Faut aller voir ailleurs. Donc on avait décidé de travailler des captations vidéo, puis de voir ce qu'on pouvait faire comme ça dans l'esprit de trucs courts en vidéo. Puis on a gratté comme ça pendant 2 ans, un rendez-vous d'un rendez-vous mensuel, ou 2 rendez-vous mensuels sur 2 ans, on a accumulé beaucoup de matière.
Avec un collègue réalisateur, voilà, qui venait nous filmer, hein, et puis nous on improvisait, et puis on s'est retrouvé avec pas mal de matière, et puis à un moment donné, les choses ont fait que on n'a pas pu concrétiser jusqu'au bout ce projet, que ça s'est arrêté à toute cette matière qu'on avait emmagasinée, et puis ça s'est pas fait, le pilote s'est pas fait, et puis qu'est-ce qu'on est comme des cons, si on adaptait nos trucs sur la rue pour la rue et tout ça, on a quand même
Un petit peu d'expérience.
Puis on a des films et tout. On avait fait un peu des vidéos. On dit alors on commence à regarder une vidéo. Il dit c'est bien la vidéo, mais là on sera dans la rue avec les gens et c'est pas avec une caméra. Et donc on a gardé juste nos personnages, nos principes. Et puis on a refait un spectacle en 1 mois. On l'a écrit, mais on avait beaucoup de matière avant pour l'adapter à la rue, aux gens. Et donc c'est le public qui se retrouve en formation. Et pas que moi qui suis un élève enthousiaste.
T'es un élève enthousiaste, effectivement. Alors,
pour conclure sur ce qu'avait introduit Pierre, c'est qu'on s'est pointé à Aurillac et on s'est inscrit sous un faux nom de compagnie, les Almanachs Flambés.
Ah non.
Si.
Oui, c'est pour éviter certains pièges. Parce que quand on est une compagnie pas un peu reconnue, mais qu'on est bien attendu au coin du bois aussi, hein, c'est normal. Donc il vaut mieux que ça soit après le boulot. Et puis là, comme on avait fait ça un peu à l'arrache, au fun, on s'est dit on va se pointer à Aurillac.
Ils vont vous attendre au tournant.
On n'avait même pas joué, Donc on s'est dit, on va se mettre sous un faux nom, les Almanachs Flambés.
Et on va privilégier le plaisir de faire et la découverte de ce que ça donne quand on se remet en condition comme au tout début, comme on avait fait il y a 18 ans, quoi. Donc on s'est retrouvé en effet avec des compagnies, tu joues là, toi, tu te pousses, je peux m'y mettre, attends.
Dans
etc.
le off de off, c'était rigolo.
Et c'était rigolo, ouais. Et puis, du coup.
Avec personne qui vient voir les Almanachs Flambés, forcément, donc tu les chopes. Hein, c'est normal. Donc tu es obligé de les pécho. Et puis, tu joues 2 fois par jour, entre les 2 spectacles, tu refais, tac, et c'est super, ça. Et tu joues, tu changes. Parce qu'on joue avec le public. Donc s'il n'est pas là, il y a un moment, et il faut bien se confronter avec le public. Donc c'était super, quoi. On s'est bien marré.
Ce qui est rigolo aussi, c'est le buzz que ça fait, en fait, le secret. Les gens venaient, enfin des organisateurs qui nous croisaient, nous voyaient plus ou moins en costume, ils disaient mais qu'est-ce que vous foutez les gars ? On dit on joue, mais quand ? Là toute la journée, mais où ? Partout. Et c'est pas possible, attendez. On dit file-nous ton numéro de téléphone, puis on verra. Si on estime qu'on est prêt, on t'appellera. Et puis du coup, après on a envoyé 3-4 en se disant, en étant un peu rassuré, on a dit t'as envie de voir ? Allez, tac. Et puis on a comme ça.
On était des malins.
Des malins en fait.
On
quoi.
Est des malins.
Mais c'est vrai qu'on avait, mis d'abord. Il y avait un peu de trouille au début de savoir ce que ça allait donner. Puis du plaisir aussi de se refrotter.
Aux vraies, pas vraies conditions. Parce que c'est tout le temps des vraies conditions. Mais à des conditions différentes de celles qu'on avait eues l'habitude.
Avec pas de technique, juste 2 valises et la gouaille. Et beaucoup de jeux de mots. J'ai trouvé que vous faisiez beaucoup dans le jeu de mots.
Ouais. Les frères en ennemis sont disparus. Enfin, il y en a, on l'a jamais retrouvé. Donc on s'est dit, il y a une case à prendre là quand même. Merde.
Il y a des jeux de mots.
Vachement de jeux sur les mots dans votre spectacle. Incognito. Et Pierre Desproges disait, le jeu de mots est un paix de l'esprit.
C'est vulgaire. C'est vrai. Il est en train de nous dire qu'on est vulgaire.
Il s'en servait tout le temps. Hein. Ça l'empêchait pas de faire plein des jeux de mots.
Oui, c'est un art mineur qu'il faut restaurer. C'est vrai. Ah, c'est les jeux de mots, c'est comme les comics, c'est tout de suite bien taxé, toi. Ouais. Ah, le comique, oh, bah, c'est facile, toi. Le jeu de mots, bon,
c'est un art mineur, mais c'est un travail de fond.
Ouais, c'est le jeu de mollet pour les gens bêtes, quoi.
Mais c'est vrai. Alors, nous, un travail de langue.
Ouais, vous travaillez sur la langue, sur les mots.
Il y a eu beaucoup de choses visuelles. C'est vrai que celui-ci, il est. Ouais, celui-ci,
on est des tchatcheurs, de toute façon.
De toute façon, vous êtes des tchatcheurs.
Enfin, de la tchatche, mais après, si on doit rendre à César ce qui est à César, c'est vrai que. Moi, à un moment, je me suis au tout début, je suis barré d'un théâtre un peu plus traditionnel en se disant qu'il y avait finalement des acteurs qui n'étaient que de tête et qui ne maniaient que le texte et qu'on avait aussi beaucoup à apprendre de d'autres écoles ou d'autres collègues qui avaient été dans ces écoles-là, type Lecoq, donc des écoles de mouvement où le corps lui-même possède un langage. Donc là, même si on tchatche beaucoup, ne négligeons pas toute l'implication de ce qu'on fait
physiquement. De vos corps. Et effectivement, il y a des gestuels, concentration. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
C'est une énergie, c'est une énergie qui se développe. On fait la même chose complètement désincarné. Je pense qu'on s'ennuiera un petit peu, quoi.
D'accord. Merci les Alamas Givré, merci à tous les deux. Bonne chance pour la fin de votre avenir proche pour le début d'autres histoires qui j'espère seront aussi enthousiasmantes.
Merci de nous avoir invités.
Merci à toi. Ouais,
merci.
C'est la fin de cette... Un petit jingle. C'est la fin de cette couverture phare de Morlaix. Et c'est un petit peu fatigué que je vais partir de Morlaix car on fait beaucoup de rencontres, on discute beaucoup, on voit plein de spectacles de toutes sortes. Moi, j'ai vu 5 spectacles le jour où je vous ai vu. À la fin, j'en avais ras-le-bol du théâtre de rue. Je confondais toutes les compagnies, une de sol, une de plus, enfin pire en plus. Enfin, les Alamas, je vous ai appelé les Alamas Circus à un moment donné en discutant au bar.
On nous a appelé les Alamas Givers un jour, tu vois.
Ah oui, Givers. Merci Pierre Prévost, merci Aurélien qui m'a accompagné sur les émissions, à poser quelques questions pertinentes du monde à la rue, parce que moi je suis parfois un petit peu à la rue du coup sur certains domaines, et notamment je ne suis pas aussi spécialisé que vous autres. Voilà, je fais de la radio, c'est fini pour moi, pour cette édition. On se retrouvera sans doute l'année prochaine sur Fréquence Mutine à Brest, sur Canal B à Rennes et à Morlaix par internet, parce que les Morlaisiens ils ne reçoivent pas par la FM, parce qu'il n'y a aucune radio, en tout cas cette année, qui a bien voulu reprendre nos petites émissions, mais ça valera peut-être. Au revoir, merci à Michel Bosseur, merci à Marine qui m'a beaucoup aidé, merci à Claude Morizur et toute l'équipe du Fourneau, Jean-Marie, et Clémence, etc. Aussi, ouais. Clémence qui m'a filé un petit coup de main, qui a fait des petits sujets, notamment trottoir. C'était encore une fois un superbe accueil. On se retrouve l'année prochaine et puis tout à l'heure, en direct depuis le Festival du Bout du Monde, on va charger le studio dans le camion et se retrouver tout à l'heure à 17h en direct. Au revoir, merci. Ciao. À la prochaine.
Comme on dit chez les Auvergnats, qu'en avoir vos chales.